La France est-elle le paradis du blanchiment d'argent sale? Pour quel pays étranger travaille Macron? Comment l'État profond dévie des principes de la Constitution? Toutes les réponses à ces questions avec la citoyenne Sylvie Charles. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, générique.
Nous sommes en guerre.
Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors aujourd'hui, on va parler d'affaires, de très très grosses affaires dont évidemment aucun média ne parle. Mais nous, comme on adore être des cibles, eh ben on va en parler. Évidemment, ça parlera de corruption d'État, de trafic, de drogue, d'organes. Au sein même de l'appareil d'État, vous n'êtes pas prêt. Je vous dis très sincèrement, vous n'êtes pas prêt à entendre tout ce que vous allez entendre, mais bon, on va le faire quand même. Alors, nous avons de la chance d'avoir notre amie Sylvie Charles qui a enquêté, qui a d'ailleurs aussi qui a un nombre d'enquêteurs auprès d'elle, qui n'est pas lanceur d'alerte, je préfère dire, citoyenne. Bon, tiens, comment allez-vous, chère Sylvie?
Mais écoutez, je vais très bien.
Pourquoi pas lanceur d'alerte?
Parce que tout simplement, je suis citoyenne et je revendique mes droits et que la Constitution, c'est aujourd'hui très important pour nous puisque c'est notre dernière sauvegarde. Et on ne frappe pas quelqu'un qui est blessé. Et la Constitution, elle est peut-être attaquée par le gouvernement. Mais le gouvernement qui attaque la Constitution, c'est attaquer le peuple, puisque nous avons la souveraineté de la nation.
Alors, vous avez enquêté sur ces affaires d'État. D'ailleurs, Europol, voilà, on le met à côté de vous. Voilà, Europol enquête aussi, oui. Pour le coup. Racontez-nous, tiens.
Ben, je vais peut-être commencer par...
Non, mais non, juste pourquoi Europol commence à enquêter?
Eh bien, parce que, étant donné que la justice française ne veut pas investiguer sur le dossier de blanchiment d'argent, financement de terrorisme et détournement de fonds publics qui a conduit à la séquestration de mon père pendant 20 ans et à son assassinat le 11 janvier 2010, eh bien, je me suis tournée vers Europol et Europol était prêt à investiguer sur le dossier. Mais le cabinet du ministère de l'Intérieur a refusé.
De Monsieur Darmanin, donc, voilà. A refusé d'enquêter.
C'était pas Darmanin à l'époque.
C'était qui?
Gérard Collomb.
Gérard Collomb. Voilà. Ils ont refusé. Mais peut-être que maintenant, les nouveaux ont refusé aussi ou...
Alors, ils ont refusé puisque je suis appuyée par un policier qui s'appelle le brigadier chef de Monchy, qui a remonté l'information donc à Monsieur Castaner, qui l'a remonté à Gérald Darmanin, puisqu'elle estime que le dossier est suffisamment inquiétant pour ouvrir une enquête, et toujours lettre morte. Et d'ailleurs, elle, de ce fait, eh bien, elle est victime de harcèlement, et un harcèlement extrêmement grave.
Alors, c'est une affaire d'État?
Oui, c'est une affaire d'État.
Du niveau de l'affaire Elf ou Urba, où on est encore sur le calibre au-dessus?
C'est un autre calibre.
Encore au-dessus?
Oui, je pense.
Et pourtant, c'était quelque chose? Avec les frégates ou les affaires du Parti Socialiste de Mitterrand.
Oui, mais
c'est quand même quelque chose.
Là, les enjeux sont internationaux.
Bon, on va en parler, chère Sylvie Charles, avec nos amis qui sont autour de la table. Normalement, Francis Lalanne, qui m'a présenté notre amie Sylvie, aurait dû être là, mais il n'est pas là, malheureusement. Il s'en excuse, il a eu un gros, gros souci de dernière minute, mais je sais qu'il nous regarde et qu'il nous relaie. On le salue. Salut à toi, cher Francis. Merci pour ton travail. Et évidemment, on lui souhaite bonne chance pour ces élections européennes. En face, nous avons notre ami Marc Daoud, directeur de publication de Nexus. Nexus. Comment tu vas, cher Marc ?
Salut, cher Mike. Ben, ça va très bien, ça va très bien. C'est un peu trouble. Hein. J'ai vu que vous aviez été censuré là récemment.
Oui, sur Facebook. Bon voilà. C'est pas notre modèle, hein, Facebook.
Ouais, mais ça en dit long.
Ça en dit long, c'est vrai.
Vous commencez un peu à gêner, et c'est là qu'on voit un petit peu qu'on touche du doigt les sujets qui dérangent.
Je t'ai envoyé aussi le dossier, t'as pu voir, quand même, c'est pas rien.
Franchement, c'est plus de 150 pages documentées, fouillées. Moi, c'est un boulot qui m'interpelle, déjà, parce qu'à Nexus, on adore les sujets sourcés. Parfois, on met plusieurs pages de sources. Donc, j'ai vu que Sylvie a fait un boulot extrêmement exhaustif, digne d'un très bon journaliste. Et pour beaucoup des chapitres qu'elle a abordés, c'est des sujets, moi, que j'avais commencé à aborder. Et pour la plupart, franchement, chapeau. J'aurais des choses à dire. Et je pense qu'il faut absolument diffuser ce travail. Et j'adorerais le faire dans Nexus très bientôt.
C'est pour ça que je t'ai voulu auprès de nous, car tu es à la tête d'une rédaction d'investigation. Ça devient de plus en plus rare auprès des médias. Et donc, n'hésite pas à reprendre aussi ensuite l'affaire, peut-être pour le mois prochain ou dans deux mois, je ne sais pas quand, mais dans un prochain Nexus. Et je suis très content que tu sois parmi nous.
Merci.
À ta droite, Lucien Cerise, qui est permanent, gouverné par le chaos chez Max Milo, spécialiste en ingénierie sociale. Comment vas-tu ?
Très bien, merci pour cette deuxième invitation en deux semaines.
C'est pas la deuxième,
j'étais déjà la semaine dernière.
Mais là, t'as écrit un nouveau bouquin là que tu vas réciter tout à l'heure.
C'est ça, oui.
C'est ça.
Puis comme il y a un invité en moins, voilà.
Au moins tu pourras plus parler. Donc du coup, voilà, l'édito aujourd'hui, c'est sur quoi ?
Sur la révolution colorée qui vient en France, cette fois.
On a une révolution orange bientôt ?
Voilà. Je vais vous décrire ça.
De quelle couleur elle sera la révolution ?
Peut-être s'ils reprennent le code couleur des gilets jaunes. Et puis je vous parlerai de ce livre.
Nouveau livre ?
Qui est en fait la première édition, c'est de 2017.
Hein,
parce qu'on parle toujours de gouverner par le chaos. Bon, là, ça me permettra de faire un encart publicitaire pour celui-là.
Très bien. Merci à toi, cher Lucien. On va passer là à l'entretien impertinent avec Sylvie Charles. Alors, on va commencer dès le début, parce que c'est quand même... je veux dire, quand vous m'avez envoyé le dossier, j'ai vraiment cru que c'était James Bond. Non, mais je vous le dis, hein. C'est-à-dire une fiction. Mais c'est la réalité. Donc, on va passer par le début,
malheureusement,
avec votre père.
Oui.
Donc, racontez-nous.
Alors, je vais être très light. Mon père, en fait, était un homme d'affaires. C'était un homme d'affaires extrêmement doué en finance. Il avait une entreprise où la majorité de ses clients étaient des banques. Et à l'époque, il faisait tout ce qui était les placements boursiers. Sauf que, à un moment donné, il vend son entreprise. Il va travailler à la banque Sofinco et l'ANA. Et puis là, il nous fait une énorme dépression dont, normalement, il ne va pas en sortir, en fait. Donc ça, c'est dans les années 77. Moi, je quitte le domicile familial en 86. Donc, sa situation ne s'est pas améliorée, bien au contraire. Et en 90, il disparaît du domicile familial. Voilà. Donc, en 90, on n'a plus de nouvelles. Je suis la seule à le signaler auprès de la gendarmerie. Et comme je suis toute seule à dire que mon père a disparu, on m'a dit gentiment qu'il avait le droit de partir sans rien dire à personne. Donc pendant 20 ans, je me suis posé la question. Jusqu'au jour où le 11 janvier 2010, je reçois un appel téléphonique de la gendarmerie de Laventie qui m'annonce avoir retrouvé mon père assassiné à son domicile, à 30 km de chez moi. Voilà.
Donc votre père est assassiné.
Voilà.
Y a une enquête qui se passe. Et qu'est-ce que dit l'enquête ?
Alors, c'est pas comme ça que ça s'est passé. À partir du moment où j'ai cet appel téléphonique, je comprends d'ores et déjà que la situation est très loin d'être claire. En fait, dans les premiers temps, je n'ai pas accès à l'information au niveau de l'instruction, puisque le juge d'instruction ne veut pas de partie civile. Donc je dois faire du forcing.
Mais malgré ça, l'assassinat de votre père passe dans les médias. Dans les médias locaux, où on dit que votre père est une sorte d'usurier, où il prêtait de l'argent, des taux d'intérêt de 50-60%.
Voilà. Mais en fait,
ce qui est faux.
Alors, c'est faux, mais il faut savoir que ça, comment dire, il y a eu autre chose. C'est-à-dire que du 11 janvier au 28 janvier, mon père, c'est un retraité, un vieux monsieur, un vieil ermite qui a mis fin à ses jours. D'accord? Je me mets partie civile au 1er février. Début mars, 11 mars, là, il y a des articles qui passent dans la presse locale, La Voix du Nord, L'Avenir de l'Artois et tout ça, des grands pavés comme ça, où mon père s'est devenu un usurier, c'est quelqu'un qui brasse de l'argent à tout va, qui a un train de vie démesuré, qui est une personne horrible.
Ce qu'il ne pouvait plus être, parce qu'il n'était plus physiquement capable, non, intellectuellement, d'avoir ce type d'activité.
Tout à fait, tout à fait.
Donc les médias... peut-être même la justice, on crée un narratif autour de votre père pour en faire un bouc émissaire.
C'est la justice qui a fait ce narratif, puisque vous avez des articles où c'est carrément la juge d'instruction et le procureur de la République qui exposent les faits. Donc le secret de l'instruction, il n'y en a pas. Il crée un scénario, en fait. En fait, ce n'est pas un scénario, puisque les gendarmes... Alors, il faut savoir que je vais vivre une expérience très particulière, puisque les gendarmes qui interviennent officiellement affichent une certaine animosité à mon écart, alors que je ne les connais pas. Par contre, j'ai des gendarmes qui vont venir me rencontrer en off. Donc, c'est assez particulier.
Et qu'est-ce qu'ils vous disent, ces gendarmes ?
Ben justement, là, ils me disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe avec la juge. Et ils m'expliquent que... Donc, moi, je leur dis que je suis moi-même en difficulté. Donc je vois pas ce que je peux faire pour eux. Et là, moi je leur dis, mais voyez avec votre hiérarchie. Et alors là, c'est l'invraisemblable. Ils me racontent que s'ils en parlent à leur hiérarchie, ils sont en danger de mort.
De mort ?
De mort.
Les gendarmes ?
De mort, les gendarmes.
Ah oui, quand même.
Donc je sais pas si vous imaginez, mais moi en 2010, des gendarmes qui me disent, excusez-nous, mais si on en parle, on se met en danger de mort. J'ai dit, là, il y a quelque chose qui va pas. Soit ils se moquent de moi, ou alors c'est un moyen de faire une pression, je sais pas.
Et du coup, vous enquêtez ?
Pas tout de suite.
Vous enquêtez quand ?
Quand les articles de presse vont sortir, parce que j'ai quand même une certaine expérience, un certain nombre de choses. J'ai quand même un vécu professionnel auparavant. Et quand je lis les articles, là, je suis vraiment très intriguée, quoi.
Alors, lorsque vous commencez à enquêter, vous tirez un peu les ficelles. Et qu'est-ce que vous découvrez ?
Tout d'abord, je découvre le dossier d'instruction parce que je vais me battre pour avoir ce fameux dossier d'instruction. Donc, je l'ai en septembre 2010. Et quand je commence à lire le dossier d'instruction, déjà, je m'aperçois que ce que la presse a mis dans la presse concernant mon père, eh bien, était faux, puisque dans les PV d'audition, les personnes qui étaient ses geôliers expliquent que le matin, quand ils les retrouvent, ils les recroquevillés dans un coin, mon père. C'est pas lui qui a la clé du domicile, ni la clé du fameux garage de collection qui est cité dans l'article de presse et qui, en fait, est un garage de trafic. Voilà. Je découvre également tout ce que m'avaient dit les gendarmes, les comptes offshore.
Les comptes offshore ?
Ouais.
Où ça ?
Ceux des FINA aux îles Vierges britanniques.
On sait à combien se montaient ces comptes ?
Oh, mais c'est des sommes astronomiques.
Bah, dites-les ça.
On est dans des millions, en fait. Donc, il y a des millions qui rentrent, des millions qui sortent. Il y a des réserves d'argent, d'or.
D'accord.
Enfin, voilà, quoi. Il y a des comptes à la BNP Paribas, il y a des comptes en Andorre, il y a des comptes en Suisse. Il y a des comptes à la Banque des règlements internationaux suisses. Donc ça qui est beaucoup plus surprenant, puisque c'est à la banque centrale des banques centrales, ce qui n'est pas du tout normal. Donc voilà, il y a ça. Il y a une situation fiscale qui est tout à fait normale, du monsieur tout le monde. C'est une situation fiscale d'un monsieur en retraite. Sauf que les gendarmes ont découvert qu'il devait 210 000 euros au fisc. Mais il n'y a aucune trace nulle part. Donc je vais poser les questions. On ne me répond pas. De toute façon, la juge ne veut pas me parler.
Quand vous dites donc il doit 210 000 euros au fisc,
oui,
mais le fisc n'a pas la trace de ces 210 000 euros.
Enquête officielle.
Comment on l'explique, ça ?
Eh bien, l'expliquer, ils vont me faire le PV de la gendarmerie que je vous avais transmis,
oui,
où ils disent que, comme il a payé, ben, il ne trouve plus la dette.
D'accord.
À cela, j'ai répondu à la juge, je suis désolée, mais c'est quand même les comptes de l'État. Donc, quand vous payez une dette, il y a une comptabilité. Donc, il devrait être en mesure de nous dire quand et qui a payé cette dette, en fait. D'accord ?
Et vous, parce que nous, on a... là, l'entretien pertinent dure à peu près une demi-heure. Après, on aura évidemment nos amis autour de la table qui vont vous poser des questions, qui vont faire des commentaires. C'est pour ça qu'on va essayer de faire ça... On va droit au but. Hein. Là, on va droit au but.
Allons-y.
Vous voyez que voilà, le fisc n'a pas, y a pas de traces.
Non.
Qu'est-ce que vous découvrez sur ce fait-là? Ben, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça signifie?
C'est-à-dire que moi, la dette de 210 000 euros, on va me la mettre à moi.
D'accord.
À mon nom. On me la transmet à moi. Parce qu'en fait, il y a l'assassinat de mon père, mais derrière, il y a la question de succession.
D'accord.
Donc moi, j'avais entrepris une renonciation. Sauf que le notaire qui me conseille va me conseiller de refuser la renonciation parce que j'ai des enfants mineurs. Et qui m'a dit que vu le dossier, on va vous mettre un juge des tutelles et c'est eux qui vont se retrouver dans le système. Donc du coup, je prends le mode de succession qui est sous bénéfice d'inventaire. Sauf que le fisc ne l'accepte pas. Et donc, comme il ne l'accepte pas, il m'envoie la dette de 210 000 euros à D'accord. payer sous 8 jours.
Voilà.
Voilà.
Que vous ne payez pas, évidemment.
Et que je ne vais pas payer.
Que
ça
vous ne paierez pas,
certain.
Parce que vous n'avez pas à le payer.
Je passe au tribunal administratif, enfin, je vous passe les machins, etc. Et en fait, je vais avoir une personne, je vais être mise en relation par des policiers avec une personne de Bercy,
oui.
qui va m'expliquer que il faut que j'aille au service du patrimoine et voir avec la personne qui gère la succession de mon père.
Qu'est-ce que vous découvrez?
Eh ben, c'est lui qui va découvrir parce que moi, quand j'y vais, je vais lui demander, je vais lui dire, voilà ce
qu'est-ce
qu'on
qu'il
me
découvre?
Donne. Eh ben, il découvre que c'est la DGFiP d'Arras qui est derrière ce document.
Qu'est-ce que c'est la DGFiP?
DGFiP, c'est la Direction Générale des Finances Publiques.
D'accord, d'Arras.
Et donc, c'est là qu'on lui explique que mon père aurait vendu pour 649 000 euros d'actions de la Banque des Règlements Internationaux Suisses, et qu'ils ont majoré, qu'ils ont fait un calcul de plus-value au maximum, donc 210 000 euros. Mais il dit, de toute façon, le dossier, il est classé.
Mais comment on peut expliquer... C'est quoi? C'est parce qu'il y a deux comptabilités qui existent dans ce pays, c'est ça?
Oui, il y a deux comptabilités. Puisque...
Donc expliquez-nous ce que ça veut dire, deux comptabilités.
Ben, deux comptabilités, c'est qu'il y a les fichiers qui sont existants au niveau de la fiscalité. Hein. Vous avez
oui.
la liste qui est là, FECOBA, etc.
Donc en gros, pour faire simple, il y a une fiscalité un peu officielle. Voilà.
Il y a une fiscalité officielle, c'est où tout le monde paye ses
voilà,
impôts.
Une comptabilité voilà. officielle, voilà.
Et il y a une comptabilité parallèle.
Et il y a une comptabilité que l'État
oui.
fait
à côté.
De manière parallèle.
Oui.
Et qu'est-ce que et dans ces comptes de parallèle, qu'est-ce qu'il peut y avoir, d'après vous?
Bah écoutez, là déjà à première vue, il y a tout un trafic de blanchiment d'argent, hein, je veux dire, c'est clair, hein, déjà il y a ça. Il y a des ramifications avec une banque centrale qui normalement ne peut pas ouvrir de compte privé,
D'accord.
mais qui en fait.
C'est ça. Oui.
Donc je veux dire, il faut le faire. Je veux dire, en plus j'ai les chèques, hein, j'ai les photocopies de chèques qui en plus ont été validées par la mairie de la Ventille, hein, comme étant bien conformes. Et à son nom propre, donc c'est quand même démesuré. Voilà. Et de toute façon, l'enquête officielle n'a pas révélé cette particularité. Voilà, pour eux, ça n'existe pas. Voilà.
Et vous avez tout un dossier avec toutes les preuves,
ah bah oui.
tous les documents ici présents.
Oui.
Ça veut dire qu'en fait, l'État, en gros, c'est comme, je sais pas moi, un organisme mafieux qui a l'argent qui est blanchi, officiel, et son argent non blanchi, officieux.
Et
c'est ça, en gros, ce qu'on veut dire.
Et détournement de fonds publics.
Et détournement de fonds publics.
Voilà. Puisque la société Sodefina, elle gère des fonds parapublics et des fonds privés. Et mon père n'a pas d'activité professionnelle.
Et vous avez découvert tout ça...
Dans le dossier.
Dans le dossier, en enquêtant, justement, parce que, voilà,
les gendarmes ont fait un travail colossal, et leur travail va être saboté par la justice elle-même, et avec la presse, en fait. Puisque les articles qui sont diffusés dans la presse, ça permet de donner des informations au réseau, sachant que tout est au nom de mon père. Donc il suffit simplement de dire que c'est mon père qui a fait, comme il est décédé, on ferme les dossiers.
Voilà.
Voilà.
Donc on fait oublier ce que l'État fait
voilà.
en sous-main, qu'on va
voilà.
dire. Dites-moi, le Qatar Gate, Rothschild, Rockefeller, quels liens ont-ils avec tout ça?
Là, j'ai pas trouvé de lien parce que on s'est pas orienté vers cette partie-là. Nous, on s'est orienté vers la partie institutionnelle, en fait.
D'accord.
Essayer de comprendre. Parce que moi, j'ai deux choses. Je me retrouve dans la situation suivante. C'est que je ne suis pas entendue par la justice. On essaye de me faire entrer dans le réseau parce qu'il faut quand même savoir qu'ils vont essayer de m'acheter en m'offrant 1,2 million.
Ah, qui c'est qui on?
Ben, le ministère des Finances publiques avec le notaire qui était en charge du dossier.
pour que vous vous taisiez.
Pour que j'accepte.
Et vous donner 1 200 000 euros.
Oui.
Net d'impôt et tout, quoi.
Ah, je sais pas si c'était net d'impôt, ça n'a pas été jusque-là, puisque moi j'ai dit non tout de suite.
D'accord.
Donc, en plus, quand j'ai vu le dossier, parce que le dossier, c'est pas. En fait, concrètement, dans cette affaire, il y aurait dû avoir un juge qui s'occupe de l'assassinat de mon père, un juge qui s'occupe du dossier financier, puisqu'il était suffisamment conséquent pour ouvrir une enquête, et un juge qui s'occupe du dossier du grand banditisme, parce qu'il y a des activités de grand banditisme là-dedans.
Lesquelles, par exemple ?
Ben, il y a du trafic, il y a des faux billets, il y a des trafics de drogue, il y a trafic de personnes, il y a d'enfants, pédophilie, compagnie, voilà quoi.
Attendez.
Pédophilie.
Pédocriminalité.
Pédocriminalité, mais moi je le mets dans le trafic de personnes.
D'accord.
C'est la même chose, quoi. Donc,
trafic d'organes aussi.
Ben, probablement, oui, bien sûr. Je veux dire, on a tout. De toute façon, on a tout, là. On a tout le grand banditisme, je veux dire. Voilà.
Mais c'est l'État ou c'est juste quelques-uns, quelques renégats, on va dire, du nord de la France ?
Alors, moi, au début, je pensais que c'était une problématique régionale. Sauf ouais. que, comme j'écris partout, je connais plus ou moins le système français. Donc, j'écris, plus je monte en niveau, moins j'ai de réponses, plus j'ai de pression. Donc, à un moment donné, je me dis, c'est au niveau national. D'autant plus qu'à côté... Faut pas oublier que moi j'ai mes gendarmes et mes policiers où j'essaye de comprendre parce que si j'ai besoin d'être protégée, il faut quand même que la police et la gendarmerie puissent le faire. Sauf que eux, ben, ils me disent eux-mêmes qu'ils sont en danger. Donc j'ai dit il faut qu'on essaye de comprendre de où vient qui est aux manettes. En fait, on a cherché, on a dit il faut qu'on trouve qui est aux manettes et puis on va aller demander des comptes aux personnes qui tiennent les manettes, quoi. Sauf que là, surprise, on découvre qu'il n'y a plus de parti politique, je veux dire droite-gauche, je veux dire, là aujourd'hui c'est du pipeau, je veux dire c'est un parti unique. Ils ont tous le même comportement, la même façon de répondre. Je suis allée voir des députés, ils ne connaissent pas notre constitution. Et puis dès que vous leur présentez le bazar, c'est « Ah non, séparation des pouvoirs, donc c'est à la justice de ça. » Voilà. Mais je lui dis « c'est le problème là, c'est la justice ». Donc c'est à vous quand même de soulever. Non, ben voilà. Donc on se débrouille tout seul. On fait nos enquêtes. Donc je ne peux pas intervenir dans la gendarmerie parce que ça fonctionne encore système militaire. Par contre, je peux intervenir dans la police. Et donc depuis 2013, j'assiste des policiers et plus particulièrement le brigadier chef de Monchy au niveau du SGAMI Nord. Et là, je découvre un monde. Là, on fonctionne à l'envers. C'est la
pyramide. Qu'est-ce que vous découvrez ?
Les textes de loi, il n'y a rien qui est respecté dans la gestion des fonctionnaires.
Dans quel sens c'est pas respecté ?
Les droits des fonctionnaires ne sont pas respectés. Il y a des comités médicaux, il y a des commissions de réforme qui sont utilisées pour le harcèlement. La méthode de management, c'est un management par la peur. La délation, l'humiliation...
Au sein de la fonction publique.
Dans la fonction publique, et pas n'importe laquelle. Hein. La gendarmerie et la police. Et d'ailleurs, j'ai fait remarquer à l'époque, puisque j'avais les deux parties, j'avais des gendarmes et des policiers, dans la gendarmerie, ils étaient soumis au même régime que dans la police, alors que dans la police, il y a des syndicats. Donc là, j'hallucine. Et alors, les syndicats, ils valident tout.
Alors, vous avez découvert aussi que des investissements de l'État qui sont conformes, enfin qui ressemblent à ce que faisait la banque qu'a créé Monsieur Jacques Attali là-bas.
Ah non, ça c'est différemment. En fait.
Ah bah dites-nous.
En fait, nous quand on a pris nos enquêtes, on a cherché tous les dossiers qu'on pouvait avoir de blanchiment d'argent qui ont été classés sans suite. Parce que classés sans suite, ça veut rien dire. Il faut connaître le motif. Et on a relevé tous les dossiers où les juges ont classé sans suite avec des excuses bidons. Du genre, le blanchiment d'argent, c'est prescrit jusqu'en 93. Et puis après, on n'a pas réussi à avoir les informations. Je veux dire, c'est pas des réponses acceptables de la part d'un juge, surtout qu'il a quand même des prérogatives qui sont plutôt larges. Donc, on a pris ces dossiers-là. Et parmi ces dossiers, on est tombé sur un dossier qui nous a interpellés. Enfin, plutôt moi, les équipes, parce que moi, je connaissais pas du tout. Pan Eurolife, qui mettait en cause AXA. Et donc, on est parti sur
AXA, qui est une des plus grandes boîtes d'assurance de France.
Qui est dans tous les mauvais coups.
Voilà, dont le patron était un proche de l'État, Claude Bébéard. Je ne sais pas s'il est encore là.
Là, c'est Henri de Castries.
Bon, un autre qui était proche de Fillon. Voilà. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment... Derrière, on peut dire qu'il y a l'État, quoi.
Voilà, il y a l'État. Et surtout, le système qui était utilisé de blanchiment d'argent est exactement le même qu'on trouve dans le dossier de mon père, à une différence. C'est que là, dans le dossier d'Henri de Castries, enfin de d'AXA, le personnel de la Banque Postale a fait son boulot à dénoncer blanchiment, que dans celui de mon père, le fonctionnaire de la Banque Postale, lui, il a rien dit du tout. Voilà. Donc on découvre qu'Henri de Castries, c'est aussi le président de Heidelberg. Donc, de fil en aiguille, alors je vous passe parce qu'on a fait des enquêtes, machin, etc. On tire sur Heidelberg, on arrive sur la trilatérale, on retourne à l'ONU parce qu'on découvre que l'ONU, elle a des structures qui tentaculaires qui vont partout et qui sont pas légales, puisque l'ONU aujourd'hui, on découvre qu'elle elle a une structure qui s'appelle l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui siège dans notre Assemblée nationale.
Ah bon ?
Oui. Et qui a l'immunité diplomatique.
D'accord.
Donc c'est très surprenant. Et le président de cette Assemblée parlementaire de la francophonie, c'est un député québécois. Mais c'est pas tout.
Allez-y, on découvre.
Parce que du coup, on tire sur tout, on a passé notre temps. En fait, la problématique, c'est que dès qu'on prend un dossier, quand on le regarde, qu'on l'analyse, on soulève un coin, on trouve autre chose. On a découvert aussi la OMF.
C'est
l'équivalent des défenseurs des droits, qui siège lui aussi au bureau des défenseurs des droits. Et d'ailleurs, dans le dossier que j'ai fait, j'ai mis la copie dedans, parce que tout ça, on le paye, hein. C'est marqué que c'est à notre charge. C'est nous qui payons tous les frais. Et la composition, eh bien, le président de cet AMF, c'est un avocat québécois. Les vice-présidents, ce sont les défenseurs des droits du Maroc, du Bénin, et la secrétaire, c'est Claire Hédon, la défenseur des droits français. Et personne en France ne connaît cette institution.
Ben non, on la connaissait pas. Vous la connaissiez autour de la table ?
Pas du tout.
Non. Imaginez. Donc.
Ben oui, mais on découvre ça. Alors. Derrière.
C'est quoi, c'est l'État dans l'État derrière?
Alors, c'est un double État. Enfin, c'est.
Un double État. Enfin, c'est quelque chose. Comment on peut le définir?
Ben, moi, oui, c'est un État parallèle. C'est un fonctionnement parallèle. Mais c'est très tordu parce qu'en fait, ils se servent de l'image de la France, qui est un symbole de la démocratie, puisqu'on est le seul pays au monde à avoir la souveraineté de la nation. Et ça leur permet, en fait, de récupérer des informations de citoyens d'autres pays. Puisque les pays qui sont plutôt visés, c'est les pays africains.
Mais si c'est Bilderberg, c'est-à-dire que c'est en gros une branche de Davos et compagnie, quoi, j'imagine.
Mais nous on a continué l'arborescence beaucoup plus haut. On s'est pas arrêté au palier. On a cherché qui pouvait définir
plus haut que Bilderberg.
Oui, oui, oui. Pour nous, au-dessus de Bilderberg, on a déjà la BERD.
Alors voilà, donc qu'est-ce que c'est la BERD ?
La BERD, c'est la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement qui a été mise en place par Mitterrand et Jacques Attali en 1992. Mais selon mes sources, et là je n'ai pas de documents précis à vous donner, cette banque était déjà en fonctionnement avant. Alors elle a le titre de banque, mais c'est pas une banque. Hein.
C'est quoi ? C'est-à-dire qu'elle a le rôle de la Caisse des dépôts et consignations, peut-être ?
Non, c'est beaucoup plus large que ça. Pour moi, c'est un État apatride. Alors, c'est une banque qui a l'immunité aussi diplomatique,
d'accord,
qui a son siège en Angleterre, à Londres. D'accord. C'est une banque qui a signé un accord de siège avec le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord. La police, la gendarmerie n'a pas le droit d'y rentrer. Le personnel, en grande partie, ne verse pas d'impôts au Royaume-Uni, mais paye un impôt à la banque. En fait, les employés de cette banque, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais apparemment, ils ne sont pas reconnus salariés, ils ne sont pas reconnus fonctionnaires.
Mais cette banque.
Et ils n'ont qu'une langue officielle.
Alors, on l'appelle on peut l'appeler banque ou organisme, je ne sais rien. Intervient dans les politiques nationales des États.
Ah oui, quand vous lisez son cursus, c'est une banque qui, alors elle est pour le secteur privé. C'est pour ça que je vous dis que,
d'accord,
pour l'instant, c'est pas intéressé au secteur privé, on s'est intéressé au secteur institutionnel,
oui,
puisqu'elle est pour le secteur privé, mais elle intervient dans les institutions. Elle met systématiquement, elle rentre dans les institutions des pays qu'elle aide. Ça, voilà, c'est clair. Et donc, on découvre qu'il y a ce genre de fonctionnement. Et bien alors, la cerise sur le gâteau, c'est que cette banque, elle a été mise en place avec l'autorisation d'une délégation russe.
Ah bon ?
Ouais.
D'accord.
Et que pendant, jusqu'en 2014, la BERD a financé l'économie des pays russes. Enfin,
D'accord.
Donc ça déjà, on a découvert d'ailleurs un rapport de l'Assemblée nationale de 2003, qui parle de cet investissement financier, mais qui parle aussi d'une tentative de rapprochement institutionnel. Mais je vous invite à le lire parce que...
Ben justement, vous avez tout un dossier.
Oui, mais là, je ne l'ai pas parce qu'il fait 300 pages. Hein.
Non, mais en tout cas, celui que vous avez,
oui.
Vous l'avez rendu public pour que les gens connaissent.
Alors, celui que j'ai fait là, c'est tout simplement parce que dans notre Constitution, on a le droit de rentrer en résistance. C'est un droit inaliénable. Mais pour ça, il faut démontrer que le gouvernement ne remplit plus ses obligations et qu'il travaille pour des intérêts étrangers et privés. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait ce document. On a commencé, on l'a amorcé. D'accord. On l'a diffusé essentiellement dans la population, parce que ce sont eux les premiers concernés. Mais ceci dit, il y en a qui sont allés le porter. Hein. Monsieur Larcher l'a eu directement en main propre. La sénatrice Gacquer aussi. Donc, Darmanin, lui, il l'a eu via le chemin ministère de l'Intérieur par les policiers. Donc, les institutionnels l'ont eu. Et donc, ce document, il a été envoyé aussi à tous les personnes responsables de l'Union européenne, puisqu'on a découvert quand même qu'il n'y a pas de politique, il n'y a pas de vraie politique anti-blanchiment d'argent et anti-financement du terrorisme.
Alors, ma dernière question, chère Sylvie, et on va passer à la discussion avec nos amis.
Et on a oublié une banque.
Ah, laquelle ?
Qu'on vient de découvrir, qu'il n'est pas dans le machin, qu'on vient de découvrir maintenant, qui s'appelle la Banque Asiatique d'Investissement et d'Infrastructure.
Qui est comme la BRD.
Oui, mais chinoise, ça a été mis en place par la Chine. Les principaux actionnaires, c'est la Chine, l'Inde et la Russie. Et nous, France, nous sommes cofondateurs.
D'accord. Pour qui travaille M. Macron ?
Pour la Chine.
Pour la Chine ?
Oui, parce que j'ai découvert, je vous donnerai tout à l'heure, on a découvert, parce que du coup maintenant, on a compris comment ça fonctionne, on a découvert des accords avec la Chine concernant la fonction publique, notre assemblée parlementaire, le secteur médical. On a plein d'accords qui ont été signés avec la Chine et ils interviennent comme si c'était un pays partenaire, vraiment impliqué dans notre fonctionnement. Surtout quand on voit le résultat aujourd'hui. Puis je vais prendre un dernier exemple qui est d'actualité. Actuellement, vous savez que les entreprises éoliennes allemandes et françaises sont en difficulté. Et la France y travaille, hein, puisque les dossiers qui sont présentés devant les tribunaux, tribunal administratif, eh bien, sont rejetés parce que ce sont des marchés bilatérales avec EDF et qu'EDF n'accompagne pas les entreprises devant les tribunaux. Et tout ça au bénéfice de la Chine.
Alors, que pour la Chine ? Parce que, par exemple, on voit qu'il en a en première ligne sur l'Ukraine.
L'Ukraine, c'est un pays qui est complètement sous la domination de la BRD.
Donc la banque...
Voilà. Alors il faut savoir que on va prendre comme exemple le spectacle, c'est-à-dire que vous avez la scène où vous voyez tout ce qui joue, tout ce qu'on vous montre, et puis il y a les coulisses, hein, eh bien où tout le monde est autour de la table, tout le monde se serre la main, tout le monde discute, tout le monde fait ses petites affaires. Je veux dire, j'ai un document de la BERD, je crois que je vous ai transmis, je ne sais plus quelle pièce que c'est, où ils ont déjà fait des prévisions pour 2024, où l'Ukraine et tous ces pays-là vont être en augmentation. Ils vont faire un plus. Quand on est en guerre, c'est pas le cas, je veux dire, je suis désolée. Et nous, la France, hein, on a fait, nous, au niveau du PIB, on a fait un plus 0,9% avec l'argent de la drogue. D'accord ? Alors, l'argent de la drogue, alors là, je vais ouvrir une parenthèse, parce qu'il faut quand même savoir que l'INSEE avait préconisé au gouvernement de tenir deux comptabilités. Mettre l'argent de la drogue à côté, puisqu'il était question aussi de mettre l'argent de la prostitution. D'ailleurs, à un moment donné, ils avaient dévié au niveau de la justice de dire qu'il fallait faire la part des choses entre la prostitution consentie et celle non consentie. Je veux dire, je suis désolée, mais là, voilà, ça s'est pas fait, mais c'était en vue d'être fait. D'accord ? Donc on est dans un fonctionnement qui est un fonctionnement criminel, il faut le dire. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, on ne sait plus nos institutions à qui ils appartiennent, puisqu'on est parti dans un système hybride. La sécurité sociale, elle est mi-privée, mi-publique. Et quand vous posez la question, on ne vous répond pas. Donc on ne connaît pas la partie qui est publique, la partie qui est privée. On a des structures qui interviennent aujourd'hui où on est en train de mettre de côté la police et la gendarmerie. Hein, faut être clair, on est en train de les effacer pour les remplacer par des agents de sécurité, donc par ce fameux SNAPS qui est le Conseil National des Activités Privées de Sécurité, où on va chercher, ils vont chercher du personnel hors Union européenne sans vérifier les casiers judiciaires. Ils ont le droit de faire rentrer sur le territoire français des agents de sécurité étrangers sans demander autorisation à personne. Et d'ailleurs, ici, avec les JO, ils ont relevé 102 fichiers S, mais ils sont en deçà du nombre, hein, je peux vous le dire. Et tout ça, c'est recruté parce que c'est une structure, aujourd'hui, c'est une administration hybride totalement illégale. Alors, cette administration, elle existe, elle est chapeautée par le Conseil d'État et la Cour de cassation. Ce sont des magistrats qui font les recrutements, d'accord, et les agents font prêt de serment. Mais ils sont salariés d'entreprises privées. C'est incompatible.
Merci beaucoup, chère Sylvie. On va en parler tous les quatre dans la grande discussion qu'on aura ensemble. Mais avant ça, les petites annonces.
Il ne faut pas avoir peur.
Merci à vous d'être si nombreux, 4500 personnes en même temps. Merci pour votre confiance. N'oubliez pas de vous abonner à la lettre de Géopolitique Profonde. Voilà, c'est celle du mois d'avril. Allez-y. C'est le premier article du général Delavarde. Et puis, abonnez-vous sur la chaîne YouTube à 200 000. On va faire une grande soirée, une très grande soirée. Vous serez tous invités. Il reste 7000 personnes là. 7000 personnes. Qu'est-ce que c'est 7000 personnes? Donc, vous vous y abonnez. Dis-moi, cher Marc, t'as vu tout ce qu'on entend là, ça fait froid dans le dos.
Franchement, bah ça vient confirmer moi mes plus de 10 ans de travail hein, à Nexus, les différents échanges que j'ai eu avec des gens dans le domaine des lanceurs d'alerte, des gens dans le domaine politique aussi. Tout ça vient corroborer l'infrastructure, l'écosystème qu'on a, nous, les journalistes de Nexus et tous les journalistes indépendants, de comment fonctionne notre société, comment fonctionne ce monde. Alors, Sylvie est allée beaucoup plus loin. Elle est allée chercher les sources, elle a tout centralisé dans un document, et c'est là où, du coup, le boulot est extrêmement...
C'est quand même un énorme travail d'enquêteur et un excellent travail d'enquêteur.
C'est un énorme boulot. Pour chaque chapitre, il y a des enquêtes à faire. Chaque chapitre mériterait une enquête à part entière. Et comme je disais à Sylvie, juste avant de commencer l'émission...
Et justement, toi, qui es habitué de ces enquêtes de terrain, des enquêtes sur l'État... Là, quand même, qu'est-ce que tu t'es dit? T'es quand même tombé de ta chaise.
C'est la deuxième fois que je reçois un document comme ça. Voilà.
Ah ouais, deuxième fois dans toute ta carrière.
J'ai eu une autre personne qui m'avait envoyé un travail assez similaire, plusieurs centaines de pages, énormément de données centralisées comme ça, qui réunissent, on va dire, les réseaux d'influence français, internationaux, les organismes privés, publics, les choses un petit peu offshore, etc., et qui a tout centralisé. Franchement, ça dépasse la capacité d'une petite équipe de la taille de Nexus de pouvoir enquêter là-dessus et de pouvoir publier. Bon, la personne nous avait demandé de faire un numéro spécial là-dessus. J'ai dit franchement, c'est hors de nos capacités humaines. Et c'est la deuxième fois, là, je tombe là-dessus, je me dis, OK, bon, il y a vraiment quelques personnes dans ce pays qui s'intéressent aux coulisses du pouvoir, finalement, c'est ça. Il y a les pouvoirs affichés, les pouvoirs médiatiques, le pouvoir politique. Alors, de temps en temps, il y a des médias qui tapent sur telle ou telle personne. Un Mediapart aime bien faire tomber des têtes, hein, c'est toujours intéressant, mais finalement, derrière, les ficelles... Alors, on parle de Bilderberg, c'est intéressant. Les Bilderberg, ça nourrit beaucoup de questions. Parfois des fantasmes, mais légitimes. La trilatérale, le CFR, etc. Ça me rappelle le bouquin, je pense que vous le connaissez, Sylvie, de Christophe Deloire, Circus Politicus. Alors, c'est en 2012, Christophe Deloire, qui est aujourd'hui patron de Reporters sans frontières, mais qui auparavant était journaliste indépendant, il avait déjà diffusé, publié des informations sur les Bilderberg, la trilatérale, le CFR. À l'époque, on le traitait de complotiste. Aujourd'hui, il a mis tout ça de côté pour assurer ses fonctions officielles. Moi, je l'avais interviewé en 2016 déjà. On en parlait dans Nexus. Ça, c'est la face plus ou moins visible de l'iceberg, mais qui commence à être cachée. Hein. Tous ces organismes un petit peu officiels, mais dont on n'a pas exactement la teneur des conversations.
Mais là, Sylvie... Il commence à avoir des fuites.
On a des fuites, il y a des gens qui nous ont donné quelques petites infos. On se doute hein, de ce qui se passe. Le dîner du siècle en France.
Bien sûr. Voilà. Tu connaissais la BERD ?
Pas du tout, pas du tout. Et là, si
tu
es allé beaucoup plus loin, moi j'aurais mille questions à lui poser.
Vas-y, bah, pose tes questions, vas-y.
Moi, franchement, j'ai envie de me demander, c'est est-ce qu'il y a un lien avec la BRI et Clearstream? Je me rappelle du travail de Denis Robert à l'époque sur Clearstream. Tu nous parlais de la BERD, de cette double comptabilité aussi. Clearstream, à l'époque, bon, on a à peine effleuré le sujet avec Denis Robert. Après, ça a été noyé dans l'affaire Clearstream 2.
Alors, l'affaire Clearstream, c'était les faux fichiers faits par Villepin contre Sarkozy.
Alors ça, c'était l'affaire Clearstream 2. Et Denis Robert l'expliquait très bien. C'est celle qui a noyé l'affaire Clearstream. Voilà. En fait, ça, on en a fait une affaire politico-médiatique et financière, etc. Et finalement, le vrai sujet de l'affaire Clearstream, personne ne l'a compris. Et finalement, elle a été, on va dire, noyée par cette affaire Clearstream 2. Et l'affaire Clearstream, selon Denis Robert, c'était vraiment une agence pour blanchir l'argent.
Bah oui, bah en fait, justement, c'est un système. Et on le retrouve dans plein d'autres structures. Je veux dire, c'est mis en place. Et c'est pour ça que dans les grands groupes, il y a une ambiance de travail qui est pas bonne. Parce que pendant que vous êtes occupé à essayer de garder votre poste, à faire votre travail, eux, derrière, ils se servent de l'entité, en fait. C'est pas leur premier objectif. Et c'est pour ça qu'on voit des fusions, des bascules. Mais voilà, et en plus, c'est vrai que les enquêtes ne sont pas conduites là aujourd'hui. Quand je vous disais qu'il n'y a pas de, aujourd'hui, il n'y a pas de politique. On vous parle de blanchiment d'argent, on vous parle de financement de terrorisme, on vous sort des décrets, etc. Mais les enquêtes ne peuvent pas arriver à terme. Les banques, elles ont l'immunité. Vous pouvez, dès que vous arrivez, ça s'arrête. Et là aujourd'hui, Europol le dénonce, les organismes financiers et les banques, elles sont actives, elles sont moteurs dedans, et ça ne peut fonctionner qu'avec l'aval des États.
Et c'est ça qu'on voit, pardon, juste termine, c'est qu'on voit effectivement que certains médias agitent des scandales, des choses qui vont un petit peu occuper l'espace médiatique et l'espace cérébral des gens sur des choses complètement scandaleuses. L'affaire Clearstream, c'est vrai, elle nous a occupé un petit peu à l'époque. Il y a le Covid, il y a toutes ces choses-là. On va agiter des choses qui vont occuper les gens. Et finalement, derrière, on a ces banques, les banques des banques. On a ces triple comptabilité et on a finalement des réseaux très, très, très opaques dont personne ne connaît précisément le fonctionnement.
Et le côté qui est quand même grave aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte qu'ils sont en train d'instaurer des monopoles. Et ils jouent sur les structures législatives et légales, mais ils sont en train de mettre en place des monopoles. Nous, on l'a vu quand on est rentré dans la haute finance, hein, je veux dire, aujourd'hui, leur façon de fonctionner. Mais il y a des Pac-Man qui viennent, qui avalent le tout. Et c'est pareil pour les entreprises, je veux dire. Aujourd'hui, on a des entreprises, on ne sait plus qui fait quoi, mais ils sont en train de tout recouper. Et alors, au niveau professionnel, surtout dans l'alimentaire, etc., les professionnels le ressentent et le voient bien. Je veux dire, et ça, un monopole, je veux dire, si on laisse faire des monopoles, c'est la catastrophe pour nous, quoi.
Alors, cher Lucien, vas-y. Mais n'hésitez pas après à poser des questions si vous en avez. Hein. Vous êtes là pour ça aussi. Allez-y.
Oui, effectivement, la BRI n'est pas une banque de dépôt ouverte aux particuliers, donc on se demande comment techniquement votre père a pu avoir un compte. Parce que effectivement, la Banque des règlements internationaux, comme Clearstream, c'est en fait une chambre de compensation.
Exactement.
Enfin, ça fonctionne de cette manière-là.
Et elle gère les banques centrales.
Et par exemple, dans les années 30, elle a permis à la City d'alimenter la banque du Troisième Reich.
Oui, exactement.
En 1939.
On tourne toujours vers ça, hein, je le dis.
Et d'ailleurs, elle avait été fondée par Hjalmar Schacht, qui était le ministre des Finances de Hitler, et Maurice Strong, si je me souviens bien, et Montagu Norman, qui était le président de la Banque d'Angleterre au début des années 30. Et donc, ça m'amène à distinguer aussi deux choses, en fait, enfin, une remarque, en fait, concernant justement les rapports entre Bilderberg et le mondialisme. En fait, le groupe de Bilderberg est fondé en 1954 pour lutter contre le communisme. Tout d'abord, en fait, c'est une officine atlantiste, fondamentalement, anglo-américaine pour l'essentiel, et qui, donc, n'a jamais invité de gens issus du bloc communiste, par définition.
C'est ce qui s'est dit.
Voilà. Officiellement.
Officiellement.
Voilà. Et puis, depuis la chute du mur, enfin, et puis la fin du communisme, il n'invite toujours personne venant de Russie ni de Chine. Il n'y a toujours aucun invité, ni russe ni chinois, à Bilderberg. Davos, c'est totalement différent. Effectivement, Davos, c'est du mondialisme à l'état chimiquement pur. Et effectivement, bon, les Russes étaient impliqués, les Chinois aussi. C'est juste, en fait, une remarque, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour distinguer les réseaux. En fait, il y a les réseaux atlantistes et les réseaux mondialistes. Alors, ils peuvent converger, ils peuvent s'inviter mutuellement, ils peuvent travailler ensemble, mais c'est pas exactement la même chose. Bon, c'est juste une remarque.
Oui, mais j'ai pas la même lecture que vous.
C'est quoi votre lecture, dites-nous?
Bah pour moi, au niveau de Bilderberg, je veux dire, c'est s'il n'y a pas de Russes et de Chinois qui sont invités à Bilderberg, c'est tout simplement parce que l'objectif de Bilderberg, c'est d'avoir des informations et de pouvoir manœuvrer tranquillement contre l'Occident.
Là, en l'occurrence, c'était pour l'Occident, en fait.
Mais quand vous lisez les documents, moi j'ai lu des documents, quand vous lisez la BRD, c'est la démocratie, c'est super, c'est machin. J'ai lu la constitution chinoise, hein, je veux dire, c'est pareil, hein, le citoyen, machin, etc. C'est quand même le pays où on a encore la peine de mort, tac, tac, machin. Je veux dire, je suis désolée, c'est toujours bien, c'est toujours joli. Mais dans l'action, c'est totalement différent. Ah oui. Et puis, comme je suis dans l'investigation et que je travaille quand même avec des gens qui ont une certaine expérience, on se rend bien compte que, par exemple, Bilderberg, c'est un lieu d'information. Parce qu'on a découvert que sur les personnes qui sont invitées, qui sont flattées d'être invitées, Bilderberg, quand il les invite, il a déjà au moins les renseignements sur 2 générations. Donc ils savent comment pouvoir les faire bouger, comment à qui ils vont devoir faire pression, comment ils vont. Et en plus, quand vous regardez les profils, je veux dire, c'est quoi? C'est des financiers, c'est des politiques, c'est des journalistes, c'est tous les gens qui ont une possibilité de manœuvrer à un moment donné à un autre. Hein. Donc voilà. Et en plus, vous avez la trilatérale à côté où là, c'est plutôt le secteur business hein, qui est touché. Et ils ont des informations. Parce que nous, on se rend compte que les informations, c'est pas les écoutes téléphoniques. Hein. C'est, ils ont les réseaux, ils interviennent. Voilà, quoi. Donc, alors, vous parlez de la chèque de la BRI. Vous voyez, c'est au nom de mon père.
Ouais. De votre père?
Oui, c'est au nom de mon père.
Ah, au nom de mon père, mais signé par lui?
Non. Ah. C'est la BRI qui lui fait un chèque, mais d'accord, à son nom. Mais par contre, c'est validé par la mairie de la banquise.
Est-ce qu'on peut le montrer à l'écran?
Allez-y, montre-le
à l'écran. Attendez, regardez, le chèque de la BRI. Non, par là. Devant, là.
Ah, voilà.
Regardez, chèque de la BRI, de l'ordre de combien?
Ah bah là, c'est des dividendes qu'il verse.
Il verse.
Alors, c'est 64 000 et c'est des francs suisses.
64 000 francs suisses, à peu près 60 000 euros, quoi.
Oui.
Est-ce qu'on peut dire que votre père, ça a été un fusible, en fait?
Ben, ils ont utilisé son nom. Dans le dossier d'instruction, il y a 5 Claude Bocage qui sont à 5 endroits différents.
Mais d'après vous, qu'est-ce qui justifie que je sois tombé sur votre père?
Ben parce que mon père, il était dans le monde des affaires.
D'accord.
Et je pense qu'à un moment donné, il n'a pas voulu suivre. Et puis voilà. En fait, les gendarmes, ils m'ont expliqué que mon père, il a été séquestré parce que il s'est retrouvé victime collatérale d'une autre affaire qui s'est passée à Lille. Roger Labanane, je ne sais pas si ça vous parle.
Non.
La Roger Labanane, c'était une affaire similaire un peu au Carlton, moins sans les prostituées, mais c'était plus trafic banquier, agent immobilier, notaire, banque, etc. Et c'est un dossier qui a été enterré. Et ils ont enterré mon père avec. Voilà.
Oui, il n'y a pas de limite dans ce genre d'affaires. Moi, ça me rappelle, rien à voir, mais en fait, la capacité de l'état profond de certains réseaux de faire disparaître des gens, l'affaire Boulin, ministre français, en 79, franchement, c'est une affaire qui mérite le détour. Il y a tout ce qu'il faut sur Internet pour aller creuser. L'affaire Bérégovoy aussi, il n'y a pas de limite. Les personnes qui sont dans des réseaux et qui s'opposent un petit peu à la marche à suivre.
Mais s'ils n'ont personne pour les bloquer, je veux dire, ils continuent. Je veux dire, moi, aujourd'hui, ils doivent regretter de ne pas m'avoir fait disparaître avant.
Et vous avez reçu des menaces, vous?
Alors, au début, on a eu droit au vandalisme. Je veux dire, je crois qu'on a perdu je ne sais pas combien de véhicules. Moi, j'avais les policiers qui m'accompagnaient au tribunal pendant leur jour de congé, etc. Ils s'arrangeaient, etc. Mais quand je me rappelle tout ce que j'ai vécu, mais je me dis, mais c'était...
Racontez-nous.
On est allé au tribunal, comme ils avaient peur qu'ils me fassent un accident sur la route ou quoi qu'est-ce. On était à 4 voitures, enfin. Mais le délire le plus profond, ils se sont attaqués à mes enfants. je veux dire, et l'aider.
Vous pouvez revenir, parce que vous avez dit que les enfants risquaient d'être placés sous tutelle à un moment.
Non, mais non, pas placés sous tutelle. Ils mettaient le juge des tutelles dans l'affaire. D'accord. Pour la succession. Et il se serait servi du nom de mes enfants.
D'accord.
Parce qu'en fait, ce qu'on découvre...
Je ne connais pas suffisamment le droit.
Ce qu'on découvre en 2017, quand je signale à Europol, parce que j'ai dit là, ça ne va pas bien se passer, on découvre, parce que moi, je suis toujours en relation avec mon interlocuteur à Bercy, qui prend les renseignements, et il me dit, Madame Charles, vous êtes victime d'une escroquerie au jugement, parce qu'en fait, ils ont fait une déclaration de succession à votre nom en 2013. On est en 2017. C'est pour ça qu'ils voulaient que je devienne... Parce qu'en fait, ils vont... insister pour que je devienne acceptante. Parce que moi, je ne veux pas, je veux renoncer. En plus, la succession, elle est présentée plus que positive, donc j'ai quand même le droit de dire non, quand même. Sauf que, ils avaient fait une déclaration, et ils ont fait une fausse déclaration. Parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand vous avez des comptes à l'étranger, il faut les faire enregistrer à Bercy. Il faut pour ça justifier des ressources. Mon père n'a pas d'activité professionnelle. Donc, comment voulez-vous justifier ? Donc, ils ont fait une fausse déclaration. Et puis, ils pensaient, c'était joué d'avance. Mais on s'est aperçu aussi qu'ils fonctionnent toujours comme ça. Ils font les choses avant et ensuite, ils essayent de les régulariser. Voilà. Sauf que là, ça ne s'est pas passé comme ils souhaitaient.
Et votre père a disparu donc pendant combien d'années ?
20 ans.
20 ans. Mais... il était à 30 km de chez vous, c'est ça ?
Apparemment, d'après les gendarmes, le lieu où il était, c'était, il le déplaçait régulièrement parce que il était sous surveillance, il le suivait en fait.
D'accord. Et pendant ces 20 ans, en fait, il était littéralement séquestré.
Séquestré.
C'est un truc de fou en fait quand on y pense.
C'est un truc de fou parce qu'il y a des choses que je peux pas vous dire, mais c'était leur jouet en fait. En sachant que moi, les gendarmes, ils m'ont dit qu'il y avait des mains courantes qui avaient été déposées parce qu'il y avait de la maltraitance. Mmh. Et quand j'ai lu le dossier, dans les auditions, il y a des voisins qui ont dit que mon père était déjà arrivé plusieurs fois chez eux, leur demander de l'aide, qui était en danger.
Mmh. Et qu'est-ce qu'ont fait ces voisins ?
Ils ont fait des mains courantes à la gendarmerie, mais la gendarmerie n'a pas bougé. Puisqu'il y a des gendarmes qui sont dedans, donc... Donc voilà, quoi.
Oui, et puis les gendarmes risquaient leur vie.
Et en plus, ils risquaient leur vie.
Ils bougeaient le...
Mais de toute façon, quand vous prenez le dossier d'instruction, vous le lisez, vous voyez les gendarmes qui ont fait leur boulot, et vous voyez ceux qui faisaient partie du système, quoi. Je veux dire, la juge, elle a quand même chargé pour faire l'enquête auprès... Parce qu'en fait, tout est venu de ce garage de trafic. Elle a chargé pour faire l'enquête sur le voisinage de ce garage, le neveu des deux geôliers de mon père, qui était gendarme. Mais bon, voilà. Je veux dire, donc lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a marqué les noms des personnes et il a marqué RAS. Voilà.
Jean-Marc ?
Franchement, c'est une histoire...
C'est bouleversant.
Une histoire bouleversante, on pourrait dire James Bond, et finalement, le monde est rempli de ça.
Oui. Alors, j'ai pas fini, parce que...
Alors, continuez,
allez-y. Comme vous avez parlé d'agression, la dernière agression, c'est en 2022, parce que le brigadier chef de Monchy, elle dénonce le dossier, parce que... Elle voit aussi pas mal de choses de son côté dans l'exercice de ses fonctions. Et en représailles, ils s'attaquent à ma famille, donc ils vont s'attaquer à mon fils. Ils vont envoyer la FRI, la force de réaction immédiate, qui va défoncer la porte de son appartement. Mais quand je dis défoncer, c'est défoncer, la porte, elle s'est cassée en deux. Ils ont arraché le battant et tout, ils ont laissé la porte comme ça. Il a fallu se débrouiller tout seul.
C'est quoi la FRI ?
La FRI, c'est la force de réaction immédiate.
D'accord. C'est rattaché à quel...
Bonne question, parce que figurez-vous que quand c'est arrivé, moi j'ai appelé les policiers qui sont avec moi, ils m'ont dit on connaît pas, c'est très embêtant. Donc ils avaient laissé un petit papier, un petit morceau de carnet avec un numéro de téléphone, et puis quand on a téléphoné, on a eu un major qui était très énervé, qui dit mais de toute façon, il peut rien faire maintenant, parce que ils sont intervenus, il n'y a pas de numéro de dossier, enfin le procureur n'est pas prévenu, rien du tout. Donc, il y a d'autres policiers qui vont appeler. Et puis, conclusion, ils découvrent que la FRI est indépendante et ne communique pas avec la police.
Elle communique avec qui ? Quel est son ministre de tutelle ? On ne sait pas.
Voilà. C'est Gérald Darmanin qui a mis la FRI là, parce que moi, tout ce que j'ai trouvé, c'est que ça se rapproche avec l'armée qu'ils ont mis en place avec l'OTAN, la CPR, qui est l'armée de réaction immédiate aussi. Donc pour moi, c'est rattaché, c'est le seul lien que j'ai trouvé. Voilà. Mais voilà.
Mais qui, là, en l'occurrence, s'attaque aux civils.
Qui s'attaque aux civils, donc il y a eu ça. Alors, attendez, c'est pas tout. Donc il y a eu ça. Ça, c'était en octobre, je crois. Derrière, moi, je reçois des appels téléphoniques où on me dit que mon mari est mort.
En octobre de quelle année ?
C'était 2022.
2022, oui.
On dit que mon mari est mort, donc déjà, voilà. On va lui vandaliser son véhicule. On va lui voler son véhicule. D'accord ? Et puis, moi, on me fait passer, je reçois un courrier comme quoi je vais avoir le droit à visite de l'assistante sociale et du centre gériatrique, je sais pas quoi, de Roubaix, parce que apparemment c'est à la demande du procureur de la République, parce que je suis dans un état déplorable en raison de la perte de mon père et de mon mari. Mon mari est vivant, hein, d'accord. Donc je les ai laissés venir. J'ai rien dit, j'ai laissé venir le personnel. Quand ils sont venus, ils ont dit, ben, madame, vous n'avez pas 70 ans, vous avez l'air d'être plutôt bien. Ben, je dis, je pense quand même, voilà. Donc, on a discuté, et en fait, c'est le substitut du procureur, monsieur Goupillot, qui a envoyé ces personnes pour je sais pas quoi, me discréditer, pour s'amuser, enfin voilà, quoi. Donc, j'ai eu l'occasion de m'expliquer avec celui qui a donné les ordres, parce qu'en fait, les ordres de la FRI, ils les ont eus de monsieur Papineau, directeur départemental de la sécurité publique. Et comme j'ai assisté le brigadier-chef de Monchy dans son conseil de discipline qui a été suspendu, hein, parce que figurez-vous que le conseil de discipline était présidé par le préfet. Et nous, dans le Nord, on a deux préfets hors classe. C'est un statut qui avait été supprimé par le général de Gaulle et qui a été remis par François Mitterrand et qui est anticonstitutionnel.
Mais hors classe ou hors cadre ?
Hors cadre. Oui, c'était hors pareil. Cadre, mais maintenant c'est hors classe. Mais d'accord. Ils ont changé le mot, mais c'est exactement la même chose. Oui. D'accord ? Donc c'est M. Thirot qui a présidé le conseil des disciplines et c'était lui aussi qui avait validé le rapport disciplinaire, qui est un rapport disciplinaire qui est... qui tient pas, donc voilà. Donc du coup, j'en ai profité, hein, parce qu'il y avait tous les commissaires divisionnaires, il y avait les représentants des syndicats de la police. Déjà, je leur ai demandé, j'ai dit, pourquoi vous dénoncez pas les faux imprimés de l'IGPN, parce que l'IGPN, elle fait des faux documents pour venir mettre des bâtons dans les roues dans les enquêtes administratives. D'accord. Voilà, donc c'est quand même pas rien. J'ai dit, pourquoi vous dénoncez pas les abus dans les commissions de réforme ? Il n'y en a qu'un qui parle, hein, il se taise. Et puis, j'avais, juste en face de moi, j'avais à votre place, comme ça, j'avais M. Papineau. Donc, je lui ai demandé, je lui ai dit, je vous ai envoyé un courrier recommandé, j'attends votre réponse. Donc, il ne m'a pas répondu, parce que c'est lui qui a envoyé la friche chez mon fils. Voilà. Donc, on a...
On continue. D'intimidation.
D'intimidation.
C'est tellement, malheureusement, fatalement. C'est assez courant dans d'autres affaires, hein, en tout cas.
Oui.
Mais c'est toujours pareil. C'est comme une mafia, en fait.
Mais en fait, là,
on utilise les organes de l'État.
Exactement, c'est ça.
À leur avantage, à leur profit,
c'est ça.
Pour continuer leurs affaires.
Voilà.
Et si tant est que quelqu'un s'oppose de près ou de loin à la bonne marche de leurs affaires, ils dégagent d'une façon ou d'une autre.
Tout à fait.
Et c'est pareil dans les affaires de réseaux pédocriminels.
C'est tout.
C'est d'ailleurs ce que vous parlez.
La prostitution, c'est pareil.
C'est
pareil.
Ça me rappelle beaucoup de témoignages de gens qui m'ont...
Mais en plus, ils osent tout, je veux dire, ils font tout, mais...
C'est ça qui est difficile, c'est de savoir exactement qui sont ces personnes-là, à quelle manette exactement, puisqu'en fait, ce sont des gens qui parasitent l'État et les institutions, et qui utilisent les leviers de l'État et du pouvoir à leur avantage.
Là, je peux vous dire que nous, ce qu'on a centralisé, c'est que tout vient d'en haut, en fait. Tout vient d'en haut et c'est
combien
bien...
Combien d'en haut, c'est quoi ?
Alors, ça vient de la présidence, ça vient des ministres, des ministères, tout simplement parce que ça vient d'en haut, puisque quand il y a un ordre qui est donné d'en haut, je veux dire, pour aller contester en dessous, bah, essayez, vous pouvez pas. Parce que quand on vous donne un ordre, je veux dire... ou vous obéissez, ou vous obéissez
mais
pas.
Mais on sait que Macron n'utilise pas le pouvoir seul.
Non, bien sûr. Voilà.
Donc on sait qu'il y a tout un réseau d'influence opaque, occulte,
oui,
qui gravite autour de ces sphères de pouvoir et qui oriente les décisions. Alors, on l'a vu avec le Covid, McKinsey. Bon, alors ça, c'était la face émergée de l'iceberg, de voir ces organismes privés qui orientent les éléments de langage et les stratégies publiques. On imagine très bien qu'en coulisses, d'autres réseaux privés.
Mais les directives sont données d'en haut, et là, je pense qu'il faut se rapprocher des liens avec la Chine.
Alors, c'est ça, moi, qui me. Franchement, merci, parce que c'est un voilà. sujet extrêmement important. On va souvent aller regarder outre-Atlantique, mais en fait, en Chine, il y a des choses extrêmement.
Parce que là, aujourd'hui, j'ai parlé de la BAII, mais aujourd'hui, la BAII, c'est la Banque Asiatique, machin. Et là, aujourd'hui, je suis en train de suivre les débats, puisqu'il y a une enquête qui est ouverte par le Canada. puisque M. Trudeau s'est fait remonter les bretelles par Xi Jinping, d'une part, et d'autre part, le Canada, aujourd'hui, a suspendu sa présence dans la banque de la BAEI.
Pourquoi ?
Parce qu'il y a un personnel qui a démissionné et qui a dénoncé ce qui se passait en interne dans la banque et tous les dysfonctionnements et comment ça se passait et l'emprise du Parti communiste. Et moi, quand j'ai lu ce qu'il racontait, parce qu'en fait, il raconte tout et il est interrogé par les députés, etc., j'ai dit, ben tiens, c'est quand même marrant, ça ressemble à ce qui se passe dans nos institutions, c'est exactement le même système. On ne sait pas. Les décisions sont prises. Par exemple, ici, on prend une décision, vous sortez, et en fait, en finalité, c'en est une autre qui est prise déjà. Donc, vous servez pas à grand chose, en fait. Vous êtes là pour réconforter les personnes qui sont présentes, mais derrière, le reste est... Et donc, il y a beaucoup de choses qui ressemblent au fonctionnement de la BAII.
Tiens, Marc rebondit, et après, je donne la parole à notre...
C'est parce que ce, on va dire. Cette réflexion, elle est extrêmement importante à avoir en tête. La Chine joue un rôle extrêmement important sur le destin des peuples européens et on ne s'en rend pas vraiment compte puisqu'on a toujours l'impression d'être toujours les vassaux des États-Unis.
Donc, on le voit avec la société de contrôle.
On le voit.
Qui vient de Chine.
Exactement. On se moquait des Chinois et du Crédit Social. On y arrive grandement. On en reparlera après.
Aura aux Jeux Olympiques.
Hein, ça. On les aura aux Jeux Olympiques avec les fameux algorithmes qui vont surveiller les citoyens français.
Mais pas que. Il va falloir, dans certains quartiers, prendre des passes.
QR code.
Et même, on pourra peut-être pas, si on n'a pas le passe, rentrer chez soi.
Il faut justifier.
C'est fou, hein.
Il faudra tout justifier. On en parle dans
que
le...
Je pourrais pas travailler à Radio Courtoisie parce que je vois.
Alors
que
moi, je vais me faire le porte-parole des forces de l'ordre, etc. Pour eux, ils disent qu'il ne faudrait pas que les Jeux Olympiques aient lieu.
Ah, ça sera pas plus mal. Vas-y, continue.
La Chine. Alors ça, c'est vraiment effectivement. On parlait du contrôle, mais ils opèrent de manière beaucoup plus traditionnelle hein, pour obtenir les faveurs et les orientations politiques qui les arrangent. Ils font de l'influence. Et la France China Foundation, que vous devez connaître, Sylvie, franchement, elle compte parmi ses membres des gens qui ont énormément de pouvoir dans ce pays. Laurent Fabius, ancien Premier ministre, président du Conseil constitutionnel, qui fait partie du Conseil stratégique, c'est officiel. Alain Mérieux, la Fondation Mérieux, qui était en
Alors, le 8 avril, Alain Mérieux était en Chine.
Il était en Chine. Quand on se rappelle du Covid, du laboratoire P4 à Wuhan, qui a été fabriqué par la France.
Le laboratoire P4 a été mis en place à partir de 2006. J'ai la traçabilité ici.
Tout ce qu'on ordonne, en fait, c'est qu'il y a les réseaux. Il y a Édouard Philippe.
Sors-les.
Édouard Philippe, Hubert Védrine. Ça, c'est les personnes qui font partie du conseil stratégique.
D'accord.
Après, il y a les personnes qui, ont participé à des événements de la France China Foundation et qui ont été dans le programme. On a Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie à l'époque. Ça, c'était en 2021. Aujourd'hui, elle est ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Elle a du boulot pour la Souveraineté Alimentaire. Pascal Lamy, ancien directeur général de l'OMC, Organisation Mondiale du Commerce.
Proche de Mme Aubry.
Proche d'Aubry. Il y avait M. Djebari. Donc ça, on est en 2021. Qui était ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique.
Sous Macron,
Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, Olivier Véran.
Et Bilderberg.
Tout ça,
c'est toujours le même monde.
Et on pensait que les Bilderberg, c'était forcément les États-Unis.
Non, et pas forcément. Je ne vous ai pas parlé des cercles et des clubs. Le cercle K2. Je veux dire, il faut aller voir le nombre de personnes qu'il y a dedans.
Qu'est-ce que c'est le cercle K2 ?
Le cercle K2, c'est comme Bilderberg, c'est des réunions informelles, mais ils traitent que tous les sujets de notre pays, de notre société. Voilà. Il y a des chaires, il y a l'université Dauphine qui chapeaute.
Ça, j'ai découvert ça dans votre rapport.
Voilà, vous avez tout ça. On a découvert ici récemment la fondation de Jean-Pierre Raffarin, qui est le représentant de la Chine à l'heure actuelle.
Qui était aussi l'invité de la France.
Voilà, exactement. Alors là, il y a un curieux mélange parce que Raffarin avait sous son aile un certain El Karaoui, qui était le neveu de deux ministres tunisiens, qui lui a mis en place le club du 21e siècle, où il y a Pellegrin, etc., etc., et qui parle d'une France islamique. Et où Valls a été invité, etc., et pareil, et ils prennent des décisions. En fait, les décisions ne se prennent plus dans nos institutions, elles sont prises là et imposées.
Et les institutions sont là pour enregistrer les demandes et les orienter. Voilà. Mais c'est vrai que la Chine joue un rôle assez
trop. En revenant sur la BERD, il y a deux personnes qu'on connaît bien qui y siègent. On a Bruno Le Maire, qui représente l'actionnaire, et puis l'autre qui s'appelle, Bertrand Dumont. Alors lui, c'est un ancien de... Ah oui, parce qu'on n'a pas parlé de France Trésor.
Oui, France.
Je connaissais mon pays, je connaissais ma constitution, je connaissais mes institutions.
On va parler de France Trésor.
Et j'en découvre plein.
Alors, France Trésor, c'est en gros cet organisme d'État qui emprunte sur les marchés.
Non, c'est pas ça.
Dites-nous. C'est, après,
vous avez le ministère des Finances publiques et vous avez la direction France Trésor et qui a des tentacules dans le privé, qui fait des tas de trucs, des tas de machins, mais qui ne travaille pas vraiment pour nous. D'ailleurs, la présidente de la BERD, c'est Bassot et c'est une ancienne de France Trésor. Voilà, Odile Bassot.
Donc dites-nous, Trésor.
Vous avez la BERD, donc, dit ça. Sauf que les personnes qui dirigent la BERD, c'est pas Bruno Le Maire, il n'y a pas son mot à dire, ce sont des directeurs. Il y a deux directeurs qui sont nommés pour la France, et donc Bruno Le Maire, il signe les papiers, c'est
il
tout.
Acte.
Voilà, il acte, c'est tout.
Alors j'aimerais un petit mot sur France Trésor, et après je donne la parole à Lucien Cerise.
France Trésor, il fait de l'immobilier, il fait...
Dites-moi, qu'est-ce que c'est exactement, juridiquement
Juridiquement, on n'a pas l'information. Et alors, sachez quand même qu'il y a le député Eusel qui a demandé à France Trésor, puisque c'est France Trésor qui gère notre dette française, qui a demandé à qui avait été vendue notre dette, puisqu'elle était de 70% à l'étranger, et il refuse de répondre.
On a eu Tom Benoît, l'économiste, qui a posé la question justement à Bruno Le Maire et à Mme Prisca Thévenot. Ils ne veulent pas répondre qui possède la dette française.
Bruno Le Maire, il ne peut pas répondre puisqu'il est au ministère des Finances publiques et que France Trésor, c'est France Trésor. Il ne faut pas mélanger. Voilà.
C'est-à-dire que c'est totalement... France Trésor est indépendant de Bercy ?
Pour moi, vu...
Je pensais que c'était une succursale de Bercy.
Parce que moi, vu la façon dont je vois les choses, je veux dire, c'est pas... Non, pour moi, c'est deux structures différentes. Comme au niveau de la Caisse des dépôts et consignations aujourd'hui, on ne sait plus quel est exactement son statut, puisque je découvre qu'elle est actionnaire à côté de l'État. Sauf que pour moi, la France... dites-moi si je me trompe, la Caisse des dépôts et consignations, pour moi, ça faisait partie de l'État.
Oui, c'est l'État.
Elle arrive à être actionnaire. Par exemple, dans la Poste, elle est actionnaire, et je crois que c'est dans la Poste. Elle est actionnaire, et à côté, elle est à côté de l'État. Alors, il y a autre chose. Il y a EDF, aujourd'hui, qui a été, soi-disant, renationalisé. C'est complètement faux, parce que EDF a un statut société anonyme, mais avec un actionnaire unique. Sauf que dans les règles, selon ce que moi je connaissais de mon économie, la société anonyme, si elle n'est pas en bourse, elle doit au moins avoir deux actionnaires. Et si elle est cotée en bourse, elle doit avoir au moins sept actionnaires. Donc là aujourd'hui, EDF, son statut, c'est un statut hybride. Alors il faut quand même savoir que les statuts hybrides, c'est un vide juridique.
Mais c'est-à-dire un statut hybride, je ne comprends pas.
C'est à la fois privé et public.
D'accord.
Ce qui fait que quand vous avez un conflit, un problème, il faudrait savoir quelle est la partie qui dépend du public, quelle est la partie qui dépend du privé. Sauf que vous ne le savez pas puisqu'ils ne vous le disent pas.
Donc ça veut dire que tout le plan qu'ils nous ont dit, oui, on renationalise EDF et tout...
C'est faux.
C'est bidon.
C'est bidon. Alors en plus, là, ils ont fait une opération... Prestigitation. En juin 2023, si je me trompe pas, ou 23, le EDF était en déficit de 540 milliards. L'État annonce qu'elle est le seul actionnaire. Elle fait un plus de 540 milliards.
Des millions.
Non, c'est des milliards, je crois. Cherchez, je crois.
C'est des milliards. Cher Lucien. Là, t'entends tous ces trucs, on a un surplus d'informations, donc c'est pour ça, vous likez, vous partagez à fond, je sais pas si cette vidéo restera, parce que là...
si, elle va rester, vous inquiétez
pas. Vous pensez qu'elle va rester?
Elle va rester.
Bon, j'espère.
Elle va rester parce que je suis citoyenne française, donc elle va rester.
J'ai
oublié de vous dire un truc, quand même, vous savez qu'actuellement, on finance la Chine. Il y a un rapport de l'Assemblée nationale qui date de 2022. On finance la Chine, on verse de l'argent à la Chine.
On leur verse de l'argent?
Je vais y venir.
Allez-y.
Il y a une députée qui apparemment a écrit à l'agence France Développement. Je ne connaissais pas l'agence France Développement. L'ai découverte.
C'est encore une nouvelle agence.
C'est encore un autre organisme. Et puis alors qui est implanté partout dans le monde. Encore une fois avec nos sous. Et donc l'agence France Développement lui répond, madame, nous, on finance la Chine, puisque au cadre légal, elle est toujours en voie de développement. Et nous vous rappelons, écoutez bien, que vous êtes administratrice de l'Agence France Développement et que vous représentez l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire qu'ils versent de l'argent à la Chine sans le faire valider à qui que ce soit. Donc ils sont autonomes.
Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, hein, c'est les liens de la Chine sur la France. D'ailleurs, j'avais vu passer un article aussi, je crois, du Monde ou d'un média comme ça officiel. La Chine, je crois que c'est le premier investisseur dans les universités françaises.
Ah bon?
Ouais.
Ah ben, on a les accords. Ah ben,
montrez.
Franchement,
attendez, je crois que je les ai pris, j'espère.
Allez-y, montrez, si vous avez les accords, montrez-les.
Attendez, si je les ai, je crois que je les avais donnés.
Vous avez plus de détails que moi, mais j'avais gardé cette info, je m'étais dit, mais comment c'est possible?
Les universités françaises.
Le pays qui investit le plus dans les universités françaises.
Les universités, c'est pas l'État, c'est pas public?
C'est des partenariats, c'est des financements privés, ils ont le droit de recevoir des fonds.
D'accord.
Et la Chine est le pays qui investit le plus.
Alors ici, je peux vous le mettre, c'est le mémorandum de l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est le partage de l'Assemblée nationale chinoise, chinoise avec la France. Donc ça, je vous le donnerai. Tenez, je vous le donne, c'est cadeau. Voilà. Ça, c'est l'accord relatif à la coopération entre le gouvernement de la République populaire de Chine et le gouvernement de la République française en matière de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses émergentes. Donc ça, je peux vous le donner.
On a compris. Voilà. On a compris ce que c'était.
Ça, c'est le protocole de coopération en matière de médecine traditionnelle chinoise entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Chine. Donc vous comprendrez pourquoi notre système médical, il est tombé. Alors ça, c'est avec la Chine et la France concernant la sécurité intérieure. Donc on fait beaucoup d'échanges avec la Chine.
Il y a énormément de partenariats avec les Chinois.
Ah, ça c'est la déclaration, là ça m'a fait rire quand j'ai trouvé ça. J'ai dit, mais ils ont de l'humour quand même. Hein. Déclaration conjointe franco-chinoise, construire ensemble un monde plus sûr, plus prospère, plus harmonieux et plus solidaire.
Ah, ça, pour les bonnes intentions comme ça, on ne peut pas faire mieux.
Voilà, et j'en ai encore, hein, je vous donnerai.
Qu'est-ce que tu as envie de dire là, Lucia, là, quel est ton sentiment?
J'ai le document là sur le protocole de coopération en matière de médecine traditionnelle chinoise, blablabla. En fait, je connais quelqu'un qui travaille dans l'industrie pharmaceutique. Il n'y a pas de guerre à ce niveau du grand capital.
Ah non, on est d'accord. On est d'accord.
En fait, les grands laboratoires, Sanofi, etc., en fait, sont toujours en Russie, en Ukraine et partout dans le monde.
Exactement.
Et en fait, on ne leur parle pas des péripéties, des tribulations.
Alors tout ça, vous le trouvez là-dessus.
Ouais. C'est quoi ce document?
C'est sur le site France Diplomatie. Vous allez vous taper France Diplomatie Traité. Parce que c'est comme un jeu vidéo, hein. Il faut chercher, d'accord?
C'est ça.
Il y a des sous-dossiers, des machins.
Parce que toutes les informations sont accessibles,
voilà. Finalement. Tout est sous notre nez.
Mais pour les trouver, c'est un parcours.
C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas le fonctionnement de vos institutions, vous vous noyez. Parce qu'en plus, ils vous donnent ça, ces informations-là, avec un tel aplomb, et tellement bien emballé, qu'à un moment donné, vous seriez capable. Même moi, j'étais capable de douter. À un moment donné, je me suis dit, mais c'est toi qui déraille ou quoi? Et non, à un moment donné, je me dis, la finalité, elle est là. La réalité, elle est là.
Quand on apprend tout ça, qu'est-ce qu'on se dit du pays dans lequel on vit?
Attendez, parce que là, vous allez rire. Parce que vous savez qu'on a un ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc je me suis dit, ministre de l'Europe, mais le ministère de l'Europe, il est où? On en entend parler quand? Et donc ce ministère de l'Europe, il a un ministre délégué chargé de l'Europe qui est Monsieur Barrot. Donc Monsieur Barrot, c'est un young leader. Un young leader.
Et c'est le fils de Jacques Barrot.
Voilà, d'accord.
Rappelez-vous, l'ancien UDF qui était dans les
gouvernements. Regardez Chirac, où il était récemment, Monsieur Barrot. Il est avec la secrétaire générale du Conseil. De l'Europe. Alors, c'est là qu'on va... Parce que là, j'ai attrapé mal au crâne, hein, je vous le dis tout de suite. Le Conseil de l'Europe ne fait pas partie de l'Union européenne.
Il est parti de quoi? On ne sait pas.
Voilà. Son rôle, il écrit des textes juridiques, etc. Il travaille avec l'Union européenne, mais il ne fait pas partie de l'Union européenne.
Alors, je veux t'entendre, là. Lucien, t'entends pas, là. Vas-y, vas-y, parle.
Regardez. Non, non, mais... D'ailleurs, c'est son document, hein, c'est lui qui le met. À ne pas confondre, faut pas confondre avec un tel, faut pas confondre avec un tel, faut pas confondre avec un tel. Faut pas confondre. Non, 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 non.
On laisse la parole à Lucien. Ah. Vas-y.
Non, mais en fait, moi, je suis le candide, hein, je découvre votre dossier, je suis submergé par les informations. Donc, bon.
Et ce n'est qu'un quart de ce qu'on a récolté.
Ouais, ouais. Mais c'est vrai que le Conseil de l'Europe, oui, c'est pas la Commission européenne,
non.
C'est autre chose.
Et alors, attendez, je découvre avec l'Ukraine, puisqu'on parlait d'Ukraine tout à l'heure. Pour rentrer dans l'Union européenne, il faut obligatoirement passer par le Conseil de l'Europe. Et l'Ukraine est au Conseil de l'Europe.
Mmh. Ah oui, bon.
Et pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi c'est obligatoire. Mais c'est marqué. Vous ne pouvez pas aller à l'Union européenne si vous ne passez pas par le Conseil de l'Europe.
Donc ça veut dire que si l'Ukraine est dans le Conseil de l'Europe, à terme, ils seront au sein de ils seront membres de l'Union européenne.
Non, 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 justement, ils ne veulent pas que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne. L'Ukraine est un pays corrompu. C'est un pays
L'Union européenne et la France aussi sont corrompus.
Oui, mais l'Ukraine est
encore plus.
Et ben, c'est-à-dire que déjà, ils ont un gros problème. Puisque si on parle sur le fait que c'est la Chine avec la Russie et l'Inde, alors l'Inde, il l'entraîne avec, mais d'après ce que j'ai lu, c'est parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, d'accord ? Mais la Russie et la Chine sont bien ensemble. Je veux dire, là, au niveau de l'Ukraine, ils n'ont pas l'intention de la faire entrer dans l'Union européenne. Je veux dire, depuis 2012, ça aurait dû déjà être fait. Je veux dire, je suis désolée. D'autant plus que la BERD, elle travaille avec l'Union européenne. Donc, elle est au courant du fonctionnement des institutions. Puisqu'elle intervient dans les institutions, la BERD, et elle intervient dans tout ce qui est milieu bancaire et tout ce qui est emprunt, etc. D'accord? Donc, ça ne s'explique pas.
Comment dire, le processus d'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne commence en 2014. Après le putsch européiste.
Oui.
Donc la question se pose vraiment seulement depuis 10 ans en Ukraine, en fait.
La Moldavie, elle est dans le même cas.
Oui, et d'ailleurs en Moldavie, ils ont je l'ai vu de mes yeux en 2017. Enfin, j'étais dans un colloque là à Chisinau, donc la capitale. Et en fait, c'est stupéfiant parce que le ministère des Affaires étrangères a été renommé ministère des Affaires étrangères et de l'intégration européenne directement. Enfin voilà. Bon, là, quand on passe devant dans la rue, on voit ça quoi. Qu'est-ce que je voulais ? Oui, enfin non, c'est juste en fait pour. Je me disais en fait, il y a plusieurs niveau de conflictualité, parce que ça, bon, je dis au niveau de l'industrie pharmaceutique, il n'y a pas de guerre. En fait, il y a encore des guerres, enfin, il y a encore des conflits, mais entre les grosses boîtes, enfin, je veux dire, entre les producteurs de médicaments. Et par contre, effectivement, le niveau des États-nations est écrasé. Et en fait, ça, donc, il subsiste en fait, des conflits territoriaux, des conflits de frontières. C'est le conflit justement russo-ukrainien, qui est en fait un conflit entre la Russie et l'OTAN. Mais ça n'a pas d'écho, par exemple, dans tout ce qui est industrie pharmaceutique.
Vous savez que le Conseil de l'Europe, elle a son institution. Vous connaissez.
Oui.
C'est elle qui donne les autorisations au niveau de comment ça s'appelle son truc ? C'est le département de la qualité des médicaments et de la santé. Mmh. Ils ont des laboratoires et tout, et ça se trouve à Strasbourg. Et c'est sous le Conseil de l'Europe.
Oui. Mmh.
Donc le Conseil de l'Europe, c'est totalement illégal. Mais ça fonctionne. Tant qu'on dit rien, on dit rien.
Donc, c'est de combien ils sont dotés ?
Ah ben oui, je crois que j'ai eu la somme quelque part. Il y a un tableau. Je sais plus où c'est. Alors, la cerise sur le gâteau, quand même, il faut savoir que dans le traité de Lisbonne, ils ont rattaché la CEDH, mais la CEDH ne dépend pas de l'Union européenne, la CEDH dépend du Conseil de l'Europe.
Comme ça, on n'y comprend plus rien. En tant que citoyen.
En tant que citoyen, on n'y comprend plus rien, sauf que quand on regarde, je veux dire, il y a matière à faire au niveau juridique, parce qu'en fait, tant qu'on ne soulève pas les questions.
Déjà, le traité de Lisbonne qui est passé en 2007, alors qu'il a été rejeté par la population française, par référendum.
Alors, il a été rejeté parce qu'il y avait. Ils voulaient faire une constitution de l'Union européenne, sauf qu'ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont réécrit, et ils lui ont donné une identité, une personnalité juridique. D'accord ?
Laquelle ?
Sa personnalité juridique, est reconnue comme étant.
D'accord.
Mais elle est basée.
C'est pas reconnue comme constitution, mais c'est comme quoi?
Ah non, non, c'est une personnalité juridique, c'est un État à part. D'ailleurs, il est bien marqué dans le traité de Lisbonne. Je crois que c'est dans l'article 3 ou 4, parce que je me le suis lu 3 fois, le traité de Lisbonne. Et je vous assure qu'il faut avoir le moral, hein. ouais. Le début, ça va. La fin, ça commence à devenir compliqué. D'ailleurs, il faut que j'en parle parce qu'il y a des organismes qui n'ont rien à faire dans, dans l'Union européenne. Et donc, l'espace Schengen. Puisque ça vient en contradiction avec la personnalité juridique de l'Union européenne, qui dit que c'est le citoyen qui est au centre, que c'est démocratique, et l'espace Schengen ne communique rien de ses fichiers aux citoyens. Et c'est quand même elle qui fait les contrôles des frontières. Donc, je suis désolée, mais donc là, il y a un souci juridique. L'ONU intervient aussi. Et donc, sauf que l'ONU, je veux dire, je suis désolée aujourd'hui pour moi, l'ONU, je veux dire, je vais être très claire, l'ONU s'est rattachée avec le terrorisme. Ça pour moi, je veux dire, qu'on vienne me dire le contraire, je suis désolée. Déjà, quand vous voyez comment elle a géré ses problèmes d'exploitation sexuelle dans son propre fonctionnement, je veux dire, c'est découvert, enfin, c'est mis à jour en 2000, il me semble que c'était en 2002 que ça a été mis à jour, on est en 2024, c'est toujours pas réglé, hein.
C'était quoi cette affaire ?
Ben, c'est le fait qu'il y ait du personnel qui fait de l'exploitation sexuelle, la prostitution, machin, viol et compagnie. Je veux dire, vous allez voir l'affiche. Hein, je veux dire, ah si, ils ont fait une chose. Ils ont créé un défenseur du droit des victimes. Mais c'est là le jeu de mots. Défenseur du droit des victimes. D'accord ? Ça veut dire que ben, vous êtes victime, on va vous donner un travail, on va vous donner une formation, mais vous n'allez pas forcément obtenir justice. Mais ok, mais qu'est-ce que vous faites pour enrayer le... Alors, elles avaient mis en place un rapport, le rapport Zaïd, qui n'a pas fonctionné, comme le rapport Brahimi sur les histoires de paix. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire le rapport, parce que moi, je lis beaucoup. J'ai lu le rapport Brahimi, je veux dire, alors là, c'est hallucinant. Je veux dire, je pense que n'importe qui a bien la tête, qui lit le bouquin, ben, ils se demandent, oui, comment tu comptes faire la paix avec tes manœuvres ? Puisque, en fait, la base du rapport Brahimi, c'est on infiltre le pays où on doit ramener la paix. Et on infiltre les forces de l'ordre. Je veux dire, c'est un peu... Enfin, c'est... Voilà. Donc, l'ONU, je veux dire... Alors, j'ai essayé de chercher aussi sur l'ONU, chercher un peu où a-t-elle mis en place la paix ? Où a-t-elle mis en place la démocratie ? Parce que la démocratie, on vous en parle à toutes les pages. Hein. Eh bien, j'ai trouvé nulle part. Elle a mis en place des Conseil national de transition. Elle l'a mis dans, je sais plus, je crois, ça doit être, il doit y avoir 6-8 pays. Eh bien, allez voir ce qui se passe. Je veux dire, des conseils de transition qui sont là depuis 20 ans, qui sont mis par et pour le peuple, mais sans le peuple. Donc, c'est des guerres civiles, etc. La République du Congo, le Congo, la Guinée, tous ces pays-là. La Libye. La Libye qui vient d'avoir une inondation carabinée. Et donc, il y a le délégué de l'ONU qui explique « Ah ben oui, mais les pauvres, on n'a toujours pas réussi à mettre le gouvernement en place, donc il n'y a pas les moyens qui ont été faits, etc. Mais toutes nos doléances. » Je veux dire, non, mais il faut regarder. Je veux dire, mais là, on se moque de nous. Je veux dire, c'est de l'abus de confiance.
C'est de l'habillage.
Mais c'est de l'abus de confiance.
On habille avec ces institutions.
Oui, mais nous, on est citoyens. Ouais. On paye, parce que tout ça, on paye. Je veux dire, aujourd'hui, quand vous voyez tout ce qu'on laisse au niveau d'impôts, etc., en plus, ils sont en train de nous déshabiller parce que nos entreprises, ils les envoient ailleurs, d'accord ? On n'a plus rien. Je veux dire, et on nous dit, ben, on fait de la démocratie, on fait ceci, on fait cela, on fait confiance, et puis quand on y regarde, ben non, il n'y a rien. Il faut aller sur le site de l'ONU, aller chercher des éléments. Je veux dire... Alors, ils font aussi de la prévention pour les enfants, sauf que la prévention pour les enfants, les parents, ils sont où ? Les parents, ils sont absents. J'ai commencé à lire leur fameux code, les articles pour le droit des enfants. Il y a des articles, ça va, mais il y a des articles, je suis désolée.
Quel article, par exemple ?
Il y a des articles sur le fait que les enfants peuvent être emmenés dans d'autres pays. Je veux dire, il y a des articles où on dit on demande l'avis aux enfants, et puis là, on ne demande pas l'avis à l'enfant. Donc je suis désolée, mais en fait c'est bien emballé, hein. Mais il faut les lire, les articles.
Oui, bah, on a l'impression que en fait l'ingénierie sociale a tout envahi. Hein,
on est dans de la criminalité.
L'ingénierie sociale, c'est-à-dire l'usurpation d'identité et l'abus de confiance. Hein. Et bon, ça.
Escroquerie. Et en plus, ils utilisent les paronymes parce que Conseil d'État, Conseil européen.
Vas-y, continue.
ONU. Ouais.
Non, mais bon,
États-Unis.
Oui, ça, mais bon, alors le problème, c'est que c'est effectivement peut-être une situation, comment dire, hein, c'est-à-dire qu'il y a un peu l'inversion de la règle et de l'exception. Hein, normalement, bon, la règle, c'est la vérité, la sincérité, et puis bon, exceptionnellement, on peut effectivement mentir ou du moins avancer masqué. Mais là, on a l'impression que la mondialisation, c'est une inversion. Hein, c'est-à-dire que c'était plus la fameuse phrase là, le faux est un moment du vrai. Non. C'est le vrai est un moment du faux.
Oui, c'est ça. C'est donc, exactement ça.
Il reste des morceaux de réel en fait hein, à l'intérieur d'un système global qui repose fondamentalement sur le virtuel.
C'est ça.
Hein, et sur le maquillage, sur le déguisement et sur la réécriture.
Vous mettez le doigt dessus parce que dans le rapport que j'ai fait, on a découvert que Adeco sortait une formation sur la guerre chinoise. A du prix. Et d'ailleurs, il y a un article que j'ai mis dedans, parce que ça vaut son pesant d'or, un article qui est paru dans la Caisse des dépôts et consignations, qui est écrit par un cadre de la banque de la BPI France, qui explique qu'il faut utiliser la du prix et qui explique comment la Chine, elle a dupé Thalès, machin, etc., etc. Je l'ai mis dedans, hein, parce qu'il fait, je ne sais plus combien de pages, mais il faut le lire, quoi. Mmh. Mais au jeu de la du prix, c'est extrêmement dangereux, parce que nous, ce qu'on voit, nous, on est extérieurs. Moi, je suis extérieure. Quand on me donne des informations, je suis extérieure. Donc, j'ai une autre lecture de ceux qui sont dedans. Parce que ceux qui sont dedans, ils sont dans l'action. Ils sont plus ou moins... ils sont un peu étouffés dans tout le système. Moi, je suis d'extérieur quand je regarde dedans. Mais vous vous rendez compte que là, vous êtes en train de laisser la place à la criminalité. Là, on est sur de la criminalité. Et si vous parlez avec les forces de l'ordre, que ce soit en Espagne, en Italie, en France, etc., il y a une augmentation de la criminalité, et pas n'importe laquelle. Hein. Trafic d'organes, la prostitution, le trafic d'enfants, le trafic de personnes, je veux dire, et tout est en augmentation. Mmh. Et au niveau des règles, ils sont plus respectés. Je veux dire, notre institution, elle a des règles comptables. On s'en fout maintenant, je veux dire, voilà. On rentre dans un système hybride. Alors, il faut quand même que je vous raconte. À un moment donné, je tombe sur un... Parce qu'on n'a pas parlé de Rougenfort.
Ben non.
Et on n'a pas parlé de la FIEP.
Alors, une chose, vous n'êtes pas suicidaire.
Non, du tout.
Voilà, donc voilà. Vous n'êtes pas... Aucun autour de la table n'est suicidaire. Moi-même, je ne suis pas suicidaire.
Non, nous ne sommes pas suicidaires.
Voilà, donc allez-y, racontez.
En fait, au début, quand j'accepte de rentrer, parce que quand les gendarmes m'ont demandé on va travailler ensemble, quand j'accepte le système, j'écoute beaucoup. Parce qu'avant de se lancer dans quoi que ce soit, comme c'est nébuleux et que c'est quand même un peu énorme ce qu'on me raconte, j'écoute. Donc j'écoute, je prends des notes, etc., etc. On parle de Rougenfort. Quand je diffuse Rougenfort dans mon entourage, parce que je diffuse des informations, hein. Comme ça, je veux dire,
ils me disent, je sais pas ce que c'est Rougenfort.
Non, on me répond, c'est l'Union européenne.
D'accord.
Mais je dis l'Union européenne, mais l'Union européenne, elle peut pas intervenir comme ça dans des pays et puis rentrer dans des guerres hybrides. Guerre hybride, quand je pose la question à, je sais plus comment il s'appelait lui, je lui pose la question parce que je trouve dans les rapports de la défense des guerres hybrides. Donc je lui pose la question, je dis c'est quoi une guerre hybride? Parce que moi je savais pas. Il me répond c'est une guerre asymétrique. J'y suis pas plus avancée, hein, parce qu'une guerre hybride, guerre asymétrique, je sais toujours pas. Et là, je sens qu'il est embêté. Parce que j'ai le chic d'embêter les gens, moi. Hein. Donc, il sent qu'il est embêté, puis là, il me fait « Bon, écoutez, Madame Charles, une guerre hybride, c'est en fait, c'est des armées non conventionnelles qui vont à la guerre avec des armées conventionnelles. » J'ai dit « Mais comment c'est possible ?»
Comme des mercenaires, quoi.
Ben, c'est des mercenaires. Mais sauf que l'ONU ne le reconnaît pas leur statut de mercenaire. Elle leur donne un statut militaire. D'ailleurs, je découvre, ah ouais, parce qu'il faut aller jusqu'au bout, je découvre que la CPI, eh bien, elle est muselée dans ses fonctions, et que l'ONU a mis en place des tribunaux hybrides. Le Kosovo a été géré par un tribunal hybride. Ce qui fait qu'il y a des informations qui ne diffusent pas. Parce que je me suis dit, Rougenfort, il va dans tous ces pays-là, et la CPI, il n'y a jamais personne qui en parle. Il n'y a pas une ONG qui en parle, personne n'en parle.
Rougenfort, c'est cette force de gendarmerie européenne, c'est ça ?
Oui, ouais. Et qui a été mis en place par Alliomari en 2004, et qui en fait est le... C'est, comment dire, son origine, c'est les armées Gladio. Exactement. Voilà. D'ailleurs, ils ont gardé l'écusson et le machin, le Pacifica, je ne sais plus quoi, là. Oui, oui, regardez. En fait, quand j'ai relancé le document, il y en a un qui m'a dit, mais Sylvie, ça, c'est les armées Gladio. Là. Donc,
Oui, Gladio, c'était pendant la guerre froide. C'était oui. Les armées secrètes.
Bah, en fait, c'est là que ça commence à devenir un peu... Ça commence à changer un peu de forme. Parce qu'en fait, c'est l'OTAN qui aurait mis en place ses armées à l'insu des États. Et si je me souviens bien, c'est le premier ministre italien, Giulietto, je sais pas quoi, qui dénonce en 80, voilà, qui le dénonce en 90. Et c'est François Mitterrand Échevènement qui referme le dossier. Sauf que derrière, il y a une enquête qui s'est faite et on découvre qu'il y avait un comité, les alliés clandestins, je sais pas quoi, qui avait été mis en place et qui apparemment aurait repris la forme aujourd'hui du Conseil de l'Europe. En fait, vous retrouvez des racines dans toutes ces choses-là qui se mettent en place. Et donc, leur objectif, c'est de nous faire un effaçage mémoire et de glisser ce qu'ils ont mis en place tout doucement. Et voilà, ni vu ni connu, quoi. Mais apparemment, je crois qu'ils ont un petit peu surestimé leurs forces.
Et plus l'ingénierie sociale, et là, du coup, le citoyen, il ne comprend plus rien. Et
oui.
C'est vrai que c'est passionnant quand on réunit ça, les rapports, les pouvoirs occultes, les états profonds, plus l'ingénierie sociale. Franchement, c'est comment on peut contrer ça en tant que citoyen ?
Ah oui, justement, voilà, c'était ma question. Comment on contre ça, toi, qui es spécialiste d'ingénierie sociale ? Est-ce qu'on peut le contrer déjà ?
En fait, déjà, oui. il faut savoir que ça existe. Il faut savoir que nos perceptions sont brouillées intentionnellement. Une fois qu'on le sait, on ne se fie plus à nos perceptions immédiates. Hein, on sait qu'il faut les décrypter. Ça oblige à une forme d'éducation, justement, en fait, aux opérations clandestines pour être capable de les décrypter en temps réel, si possible, ou au moins, peu de temps après, pour justement ne pas laisser une fenêtre d'action trop longue au pouvoir, parce qu'en fait très souvent le pouvoir travaille sur l'opinion publique. Par exemple, Netanyahou avait besoin du 7 octobre 2023, ça a fuité, il avait besoin que le Hamas lance une offensive pour avoir une fenêtre de possibilité pour lancer une opération sur Gaza. Voilà, la fenêtre de possibilité, la fenêtre de tir, elle a pas duré très longtemps, elle a duré 2 semaines, mais c'était suffisant pour lancer l'opération. Hein, ou comme Klaus Schwab disait, la crise sanitaire de la Covid-19 nous ouvre une fenêtre de possibilité, une fenêtre de tir qui va durer 2 ans à peu près. Et c'est-à-dire que l'opinion publique est suffisamment sous le coup de l'émotion pour autoriser un certain nombre de choses qu'elle désapprouve moralement ou psychologiquement en temps normal.
Alors, au niveau...
En fait, il faut travailler sur cette fenêtre Overton. Ça, c'est un outil d'ingénierie sociale. C'est-à-dire, la fenêtre Overton, c'est la fenêtre de ce que l'on tolère en temps normal. Il faut savoir la déplacer le plus loin possible de la normalité pour éventuellement nous faire entrer dans une nouvelle normalité. Ça, c'était aussi le vocabulaire de Schwab et Malraux dans leur petit livre. Et si possible, faire en sorte que la fenêtre Overton ne revienne jamais à sa position initiale pour qu'elle reste perpétuellement sur cette nouvelle normalité qu'il va falloir normaliser. C'est redondant, mais c'est-à-dire qu'il faut réussir à fabriquer le consentement au déplacement définitif de la nouvelle normalité, donc de la nouvelle légitimité et de la nouvelle légalité qui vient après.
C'est pour ça que nous, on s'accroche à notre Constitution, parce que d'abord, elle est toute jeune, elle date de 58. Mmh. On est le seul à avoir la souveraineté de la nation. Et on a des droits, mais on a aussi des obligations, et on a celle de la protéger. Et donc, c'est pour ça que là, on monte au créneau là-dessus. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si on regarde bien les choses, c'est les dirigeants contre les populations. Mmh. Parce qu'en fait, c'est eux qui veulent garder la main. Ils veulent pas de gestion collective, en fait. Donc...
Bon, faut pas oublier qu'il y a des conflits aussi entre dirigeants.
Oui, ça, je veux dire, ça. C'est bien pour ça qu'il y a des guerres, parce que c'est pas les populations qui font les guerres, c'est bien les dirigeants. D'accord. Alors, au niveau de Gaza, moi, j'ai une autre lecture, parce qu'il faut savoir que, au moment où ça arrive, les premiers envois, là, il y a les Israéliens qui descendent dans la rue, qui sont pas d'accord pour leur changement judiciaire, les réformes. Et comme par hasard, on est quand même beaucoup de pays à avoir des réformes, je veux dire, aujourd'hui, des réformes qui se tendent à être toutes les mêmes, hein, quand même. Donc, voilà.
Ouais, mais c'est ça, je ne suis pas en contradiction. Enfin, ce que je veux dire, c'est que Netanyahou avait besoin.
Oui, bien sûr, ils avaient besoin.
Diversion, tout à fait. En fait, et il a laissé faire, parce que bon, des opérations du Hamas, ils s'en préparent tous les 6 mois depuis des années. Enfin, je veux dire, quand on s'informe un peu, on le sait. De temps en temps, bon, bah, on laisse faire. Voilà. Hein, c'est comme les attentats terroristes. En fait, on crée un vivier, un potentiel de situation. Et de temps en temps, bah, on laisse s'échapper la vapeur. Ça fait un attentat. Et puis, bon, bah, voilà. Et celui-là sera médiatisé. Celui-là ne le sera pas, parce que bon, parfois, c'est pas forcément qu'on sous contrôle non plus. Mais en tout cas, bon, c'est des méthodes.
De toute façon, là, on a un souci avec le gouvernement. Nous, de toute façon, là, on a fait le rapport pour rentrer en résistance, sachant qu'on n'a pas besoin d'avoir la majorité du peuple français, hein, puisqu'on a la souveraineté de la nation, donc chaque citoyen a l'obligation de défendre son pays. Donc nous, on a pris la décision de défendre notre pays, donc on a fait ce dossier, on a fait tout ce travail pour le démontrer quand même. Je crois que là, on a largement démontré que le gouvernement n'est plus à sa place, il ne travaille pas pour nous. Je veux dire, c'est quand même important de le prendre en considération. On aura de l'appui extérieur parce que il y a d'autres populations qui veulent accéder aussi à cette libération et arrêter d'être le jouet de personnes qui veulent faire des guerres ou qui veulent s'asseoir ou tout ce que vous voulez. Donc voilà. Donc nous, c'est le process, il est lancé là de toute façon. Donc,
mais quand on voit toutes ces ramifications de ces états profonds à l'échelle mondiale, sous lesquels bah, du coup on subit nous en tant que citoyens, comment on peut imaginer la porte de sortie ? C'est vrai qu'il y a ceux qui se disent on va par les élections, par les urnes.
Non.
Franchement, ça paraît assez difficile.
Non.
Par la révolution armée.
Si...
On peut se dire mais si on prend le terrain de la violence, eux ils sont experts pour manager la violence.
Oui.
Donc finalement, c'est quoi une révolution à la Gandhi? Ou alors faire sécession? Peut-être se mettre de côté, sortir du système pour le laisser...
Non, surtout pas. Je veux dire, il faut revendiquer notre statut de citoyen.
Nous, en tant que citoyen, on n'est pas organisé. À part ceux qui sont politisés.
Il faut savoir quand même qu'il y a un mouvement de masse qui se met en place. Si j'ai commencé à diffuser ces informations-là dans la population et pas au-dessus... C'est pour permettre à un certain nombre de personnes dont je sais qu'ils vont avoir la réflexion, qu'ils vont mener, etc. Et puis surtout, ça va relancer les systèmes parce que il faut quand même pas croire que dans les administrations, vous avez tous les fonctionnaires qui sont d'accord sur ce qui se passe.
Ça, c'est vrai que dans les administrations, il y a beaucoup de gens qui nous disent par l'intermédiaire
d'autres
personnes,
en off,
ils en peuvent plus.
Voilà.
Il y a beaucoup d'hommes qui désobéissent,
ils ne le savent pas. Là aujourd'hui, vous avez Europol qui a sorti un rapport qui tacle la France quand même, hein, je veux dire, il faut le lire le rapport. Et il y a des articles qui sont passés ici récemment, et moi je suis très contente parce que du coup ça va soulever beaucoup de choses, et on va pouvoir de ce fait-là avancer parce que ça va, nous on va avancer de notre côté, à partir du moment qu'on déclare qu'on rentre en résistance, ça c'est envoyé à toutes les personnes de l'Union européenne, hein.
Depuis combien de temps ?
Novembre 2023. On l'a renvoyé, on ne s'attend pas à avoir une réponse, parce que comme ils sont mis en cause, puisqu'aujourd'hui l'Union européenne, je veux dire, elle a des comptes à nous rendre, et c'est là que c'est important, parce qu'elle a la personnalité juridique, et sa personnalité juridique est portée sur la démocratie, sur le citoyen. Et ça gêne aujourd'hui. Alors il faut savoir que pour mettre ça en place, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais moi j'ai découvert que pour pouvoir mettre en place ce traité à la place de celui qu'ils avaient proposé avec la Constitution, il y a des pays qui ont demandé des avantages. L'Italie, elle a demandé à avoir une représentativité plus importante que les autres. Et elle l'a obtenue. Et le Royaume-Uni, il ne voulait pas de la structure... des droits de l'homme de l'Union européenne pour y échapper.
CEDH.
Voilà. Non, la CEDH, c'est le Conseil de l'Europe. Les droits de l'homme, c'est la charte des droits de l'homme, je crois. Donc ils n'ont pas mis la charte des droits de l'homme, ils ont mis la CEDH pour faire plaisir au Royaume-Uni. Et pourquoi ? Parce que eux, ils ont vu le danger. Ils se sont dit, vous donnez une personnalité juridique à l'Union européenne sur la base de la démocratie. Ça veut dire que les 26 États membres, on est 27, mais nous, on est déjà en démocratie. On a déjà notre constitution. Donc les 26 autres pays, ils sont encore sur des constitutions, voire des monarchies. Donc ils sont obligés de changer. Il faut qu'ils écoutent leur peuple. Et là, pour l'instant, ils ne le font pas. Donc, la question, c'est qu'il faut sortir de là. En fait, ils avaient besoin aussi de mettre cette entité, parce que vous découvrez qu'ils ont intégré l'Union européenne dans d'autres structures, comme la BERD. Sauf que l'Union européenne, elle ne pouvait pas siéger à la BERD avant d'avoir son statut de personnalité juridique.
On va conclure, cher Marc, et ensuite Lucien.
Bah, franchement, non, mais j'entends et je partage tout le constat. Je me pose encore la question de la conclusion sur comment s'en sortir en tant que citoyen. Moi, en tant que
Déjà, on informe.
En tant que médecin,
voilà. Je me dis, on informe. Et donc, une personne après, informée en vaut deux.
En vaut même beaucoup plus.
Voilà.
Et après, ça, c'est les aléas de l'univers et de l'imprévu de la vie. C'est que après, les gens feront ce qu'ils ont à faire en fonction des informations qu'ils ont. Et je me dis, les citoyens, après, moi, je crois pas trop à la capacité par les urnes de changer les choses. Mais bon, après, si les gens veulent voter, c'est bien. Moi, j'ai déjà voté. Après, je me dis, la révolution par la force, je n'y crois pas trop non plus, parce qu'effectivement, sur le terrain de la violence, ils ont le monopole par les forces armées. Ma théorie, c'est de me dire, faisons sécession, mais de manière éveillée, concertée. Ce qui est difficile, c'est que nous, en tant que citoyens, on n'est pas tous coordonnés. On n'a pas tous une vision commune. Et notre problème, c'est les divisions. Donc déjà, parce que l'ingénierie sociale aussi, moi, j'ai appris beaucoup de choses avec Lucien, c'est qu'elle permet non seulement de masquer, de maquiller le système dans lequel on est, mais aussi d'appuyer sur les divisions pour que les gens ne se réunissent pas. Et c'est là la force des médias subventionnés, ceux qui sont à la botte des milliardaires et des copains de l'État profond, c'est que finalement, eux peuvent permettre de façonner l'opinion publique. Et il faut absolument que l'on insiste sur le fait qu'il faut rester le plus possible en union, ensemble, en tant que peuple, faire peuple. Ça peut paraître un grand mot, mais il faut trouver des visions communes pour pouvoir essayer, au moment opportun, de garder un petit peu des choses qui nous réunissent. Voilà.
Cher Lucien, et après on passe à ton édito.
Bon, je vais passer directement à l'édito.
Ah, bon, d'accord.
De toute façon, okay.
Alors, conclusion de Sylvie, peut-être ?
Conclusion pour l'Union européenne, moi j'ai dit qu'il faut boycotter, il faut bloquer le système. Bloquer le système, c'est de ne pas aller voter et demander des comptes à l'Union européenne, puisqu'elle doit entendre le citoyen, d'autant plus que nous, on rentre en résistance, donc nos députés n'ont plus de pouvoir, ils ne peuvent plus parler en notre nom. Donc c'est ce qu'on va officialiser à partir de la semaine prochaine. Voilà.
Ah, officialiser comment ?
On va l'officialiser en courrier recommandé à l'Union européenne.
D'accord.
Et on va faire un dossier qu'on va transmettre à la CPI. Parce qu'on va parler justement de la Covid, qui est une attaque bioterrorisme.
On est okay. Sur YouTube. Voilà,
D'accord.
Vous n'êtes pas encore censuré sur YouTube.
je ne veux pas que ça commence. Je veux que cette vidéo, elle reste. Donc, on va passer à l'édito de notre ami Lucien Cerise. Mais avant ça, les petites annonces.
Il dérange Big Pharma. Alors forcément, il est invité chez GPTV. L'homme aux 1 million d'abonnés sur YouTube, Thierry Casasnova, sera notre invité ce mardi 30 avril à 18h30.
L'idée dans laquelle on évolue principalement, c'est tu as des symptômes, la suppression de ces symptômes équivaut à la résolution du problème.
Son combat ? La santé. Médecine alternative, alimentation, répression de l'État, vous saurez tout. Alors abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer ce rendez-vous.
Merci à vous d'être si nombreux, presque 7000 personnes en même temps. Merci à vous pour votre confiance. N'oubliez pas de vous abonner à la lettre d'information de Géopolitique Profonde. Voilà, ce sont nos un an déjà que vous nous suivez sur cette lettre. Continuez à vous y abonner. Le lien est en bas en description. Et puis abonnez-vous. Il faut qu'on soit très vite 200 000. Et à 200 000, on vous invitera tous pour une très très grande soirée. Vous serez tous invités, évidemment. Ta chronique, cher Lucien.
Oui, alors je vais vous parler de guerre hybride, on a déjà commencé. C'est effectivement, guerre asymétrique. Hein, alors qu'est-ce que c'est que les forces non conventionnelles ? En fait, c'est les forces paramilitaires, terroristes, mais aussi les forces d'agitateurs et de casseurs. Et tout ça, je préfère parler de réseaux néo-gladiaux, pour qualifier ça, parce que les réseaux gladiaux, historiquement, il y a une acceptation du terme plus réduite, sachant que ces réseaux néo-gladiaux peuvent être aussi évidemment de civils, hein, et c'est-à-dire en fait dans les médias, hein, dans les universités, etc. Alors je vais vous parler de la révolution colorée qui vient, c'est-à-dire en fait, c'est quoi une révolution colorée? En fait, c'est une fausse révolution. Enfin, du moins, c'est pas une révolution, spontanée. C'est un coup d'État maquillé en révolution spontanée. L'un des grands théoriciens de la révolution, des révolutions colorées, c'est quelqu'un qui, et donc en fait, de la guerre contre insurrectionnelle. Ça, c'est le terme en fait qu'il avait employé. C'est un certain Frank Kitson. Qui était Frank Kitson? Alors, c'est quelqu'un qui est mort cette année. Il est mort en janvier 2024. Il était général britannique, hein, général multidécoré, hein, et théoricien et praticien surtout de la guerre hybride et de la guerre contre-insurrectionnelle menée au moyen de gangs et de contre-gangs. Hein, éventuellement monter les uns contre les autres, surtout bon en fait devenu impossible à identifier à partir d'un certain moment, au sens quand je dis identifier, c'est-à-dire jouant sur justement en fait l'usurpation d'identité et l'abus de confiance. Donc des gangs et des contre-gangs de supplétifs, hein, de forces de procuration à assembler et à monter les uns contre les autres en fonction des besoins du moment. Donc les techniques qu'il évoque dans ses écrits sont vieilles comme le monde, hein, et déjà connues par les Chinois et les Grecs. En tant que stratagème de guerre psychologique, fondé sur la ruse et les stratégies indirectes. Mais Kitson a eu le mérite d'en faire une mise à jour au XXe siècle. Donc je vais vous citer un passage d'un livre préfacé par Michel Collomb, un livre sur Hugo Chavez, et Michel Collomb fait un bon résumé en fait, hein, des méthodes que Kitson a utilisées, enfin a théorisées. Donc déjà former tous les cadres des forces spéciales et des services secrets aux opérations psychologiques, hein, les psyops. Bon, ça c'est la base, puisque le champ de bataille, hein, de la guerre hybride, c'est la psychologie, hein, c'est le cerveau, c'est la cognition. Je cite Michel Collomb. Donc monter des pseudo-gangs, hein, qui recueilleront un maximum d'informations, hein, ou qui feront le coup de poing dans la rue, mais qui surtout, en menant des coups attribués à l'ennemi, permettront de le discréditer. Employer les forces spéciales, donc les SAS dans le cas d'un Britannique, hein, pour réaliser des attentats qui seront attribués à l'ennemi afin d'augmenter la tension et justifier la répression. Je passe un peu plus loin. Utiliser la musique pour attirer des jeunes avec un message apparemment dépolitisé. Donc là, on est dans le champ de la guerre culturelle, hein, du soft power, comment utiliser la culture pour militariser la population civile. Alors, mettre en place et populariser de faux mouvements spontanés, présenté comme neutre et indépendant, et en réalité financé et téléguidé afin de diviser et affaiblir le soutien au camp adverse. C'est tout le thème de l'opposition contrôlée, etc. Après donc ses succès en Irlande, pour mater le nationalisme irlandais, la doctrine Kitson devient la doctrine officielle des services britanniques et occidentaux et celle de l'OTAN. On comprend pourquoi. Enfin, voilà. On la retrouvera appliquée dans tous les grands conflits de ces dernières années, et particulièrement dans les programmes que Washington appelle changement de régime, qu'il faudrait plutôt appeler coup d'État, qu'on appelle aussi révolution colorée. Donc fin de citation. Et ça nous pend au nez, hein, parce qu'en France on parle beaucoup de faire la révolution. Bon, à l'époque contemporaine, hein, les gilets jaunes, je parle pas du 19e siècle, hein, ou de 1789, mais à l'époque contemporaine, les gilets jaunes ont relancé la romance des barricades et surtout le mythe d'un soulèvement populaire spontané qui parviendrait à ses fins. Alors bon, moi j'ai joué au Black Bloc à une époque dans ma vie.
Ah, t'as fait ça toi?
Oui. C'était en fait pendant les manifestations.
À l'époque quand tu faisais de la muscu.
Non, surtout j'avais 20 kilos de moins. 20 ans moins aussi d'ailleurs, c'était en 2006, et je courais un peu plus vite.
D'accord.
C'était pendant les manifs anti-CPE de 2006. Hein,
moi j'étais en face en fait.
On est autour de la table.
Peut-être même rencontrer peut-être du coup.
Peut-être. Ce qui m'a permis de constater de mes propres yeux que les Black Blocs étaient totalement noyautés, hein, par des agents de police déguisés en Black Bloc, et que les CRS faisaient usage des racailles de banlieue, hein, pour attaquer les manifestants et briser les manifestations. Ça, je l'ai vu de mes yeux, en fait. Hein. Mmh. C'est un cordon de CRS qui laisse passer, en fait, un cordon, enfin, plus exactement, une ligne, hein, de racailles ramenées en taxi, peut-être. Hein. Ça, c'est aussi des témoignages, hein, qu'on a eus. Patrick Buisson, ancien conseiller de Sarkozy, hein, et Bruno Julliard, secrétaire de l'UNEF, donc le principal syndicat étudiant impliqué à l'époque, ont révélé que Sarkozy, hein, soutenait les manifestants,
oui,
et les casseurs.
C'était la guerre, rappelle-toi, entre De Villepin.
Voilà.
et Sarkozy.
C'est ça, voilà. Sur fond de rivalité, hein, donc avec Villepin. Et là, donc je cite donc Bruno Julliard. Hein, là, c'est une interview dans le Figaro. Hein, Bruno Julliard s'en amuse presque. Et là, il dit à ce moment-là, nos intérêts, lui, Bruno Julliard, hein, gauchiste, etc., et Nicolas Sarkozy, hein, étaient convergents. Leurs intérêts étaient convergents. Et donc lui, parce qu'il veut la tête de Villepin. Hein, Sarkozy et nous parce qu'on veut la tête du CPE. Et voilà, donc ça c'est encore, je reviens perpétuellement sur ce...
Moi j'ai débloqué les facs parce que j'étais à l'époque comme un
casseur de...
Non, parce qu'à l'époque, avant...
Casseur de droite.
Avant de passer chez Sarko, et parce que j'avais la vingtaine opportuniste, j'étais dans l'écurie Villepin.
D'accord.
Et donc du coup, on avait créé à l'Uni, parce que j'étais syndicaliste étudiant de l'Uni, c'était ma dernière année de fac, on avait créé Stop la grève et on débloquait les facs de France.
D'accord.
Okay, et on débloquait au forceps. Voilà, vas-y.
Bon, enfin, en tout cas, moi, je me suis rendu compte, je pourrais vous donner les détails, parce que bon, j'étais dans les manifs et à la fin, j'essayais de procéder à des lynchages de CRS. Bon,
bravo. Hein.
Mais bon, je me suis surtout rendu compte, enfin, expérimentalement, que en fait, nous n'avions aucun moyen, de toute façon, hein, de renverser le pouvoir avec ce genre de manifestation. Après, j'ai fait d'autres séries de manifestations, mais bon. Je suis pas allé aussi loin dans la confrontation, comment dire, avec les forces de l'ordre. Donc bon, en tout cas, j'ai vu qu'il y avait une dissociation complète entre la réalité et l'apparence.
Tout à fait.
Et donc qu'il y avait finalement un monde réel et un monde virtuel, hein, qui coexistait. Hein. Ça m'a posé des questions. Hein, comment le pouvoir parvient à subvertir un mouvement de contestation, hein, donc comment le pouvoir parvient à subvertir un mouvement de contestation du pouvoir pour le retourner en sa faveur? Eh bien, donc effectivement, en fait, en utilisant, hein, des groupes comme ça et en faisant une espèce d'ingénierie des groupes, hein, espèce de comment dire ça, de combinatoire, hein, en donnant en fait pour créer justement la convergence entre des groupes opposés qui devraient s'entretuer, il suffit de leur donner un ennemi commun, hein, c'est le principe cardinal de Carl Schmitt, hein, pour le geste fondateur de la politique, c'est la désignation d'un ennemi commun. C'est comme ça que vous créez la convergence sur une cible, hein, parce que cognitivement on a besoin de centralisation, en fait. On peut pas vivre sans une quête d'unité.
Pense à la rivalité mimétique de Gérard. Oui.
C'est ça, voilà.
D'ailleurs, parler de Nicolas ici, quelques
semaines. Voilà. Et donc, alors comment l'opposition devient opposition contrôlée, hein? Donc l'expression de révolution colorée est apparue pour qualifier des coups d'État maquillés en révolution populaire spontanée. Une révolution colorée, donc avant tout une révolution contrôlée. Hein, comme on parle d'opposition contrôlée. Donc bon, tout ça m'a inspiré un livre intitulé « Gouverné par le chaos ». Enfin bon, c'est-à-dire mon expérience d'extrême gauche.
Voilà. Chez Max Milo.
Gouverné
par le chaos.
Et en particulier aussi, donc en fait là, au niveau de l'inspiration théorique, c'était l'insurrection qui vient, hein, du Comité invisible, qui ont eu des problèmes justement puisqu'ils ont été accusés de terrorisme. En fait, bon, là c'était vraiment la fabrique du terrorisme, hein, puisqu'en fait ils étaient innocents. L'insurrection qui vient appelait de ses vœux une insurrection spontanée contre la société de consommation du spectacle. Ça m'a inspiré un livre donc dans lequel j'analyse comment la spontanéité révolutionnaire peut être simulée. Et quelques années plus tard, je me suis pris de passion pour les deux révolutions ukrainiennes, au point d'en faire un livre également, donc celui-là. Donc ça c'est la
voilà, regarde, il est là.
Voilà. Super. Et donc ces deux révolutions colorées ukrainiennes, on a vu le résultat en fait, hein, on permis effectivement à l'OTAN d'annexer l'Ukraine. En fait, la seule révolution qui se prépare en France en réalité sera colorée de toute façon à l'ukrainienne et dirigée contre le Rassemblement national s'il gagne la présidentielle en 2027, contre le Rassemblement national ou contre tout autre parti politique ou toute autre organisation qui, en fait, n'aurait pas, serait considérée, en fait, comme pas assez mondialiste aux yeux du pouvoir mondialiste. Et donc ne serait pas adoubé en quelque sorte par l'Union européenne ou par l'OTAN, etc. Ou par d'autres. Alors, récemment, Mediapart, hein, et la publiciste Mao Drama n'ont fait que dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Hein, le samedi 16 mars 2024, Mediapart organisait une table ronde intitulée « Comment lutter contre l'extrême droite ». Voilà. Donc non, mais il y a des millions de gens qui en sont encore là. Ils seront dans la rue au cas où le Rassemblement national gagne.
De moins en moins quand même. Hein.
Oui, ah bah, mais effectivement.
2022, déjà, il n'y avait pas trop de monde. Hein.
Oui, mais alors justement, bon, là, ce sera peut-être en fait la dernière carte à jouer, donc ils mettront le paquet. Et donc, Maodrama, voilà, se demande hein, que faire en victoire de en cas de victoire de Marine Le Pen, hein, et elle demande est-ce qu'il faut faire la révolution, descendre dans la rue et se battre. Alors, ces propos font écho aux paroles de Malek Bouti hein, le 7 octobre 2013 face à Florian Philippot, quand Philippot était au Front National. Hein, et, Malek Bouti disait nous sommes des millions de Français opposés à vous, sous-entendu, hein, si, même si vous gagnez légalement dans les urnes, vous aurez un problème de légitimité à notre égard. On ne se laissera pas faire. Là, comme quoi la légitimité serait supérieure à la légalité. Et c'est très exactement cet argumentaire qu'on a retrouvé en Ukraine, en 2004 cette fois. Hein, parce que cette révolution colorée qui vient en France sera sur le modèle de la révolution orange de l'hiver 2004-2005. Rappel historique, donc en novembre 2004 ont lieu des élections présidentielles en Ukraine. Il y a deux candidats, un pro-américain et un pro-russe. C'est le pro-russe qui gagne au deuxième tour du scrutin qui se tient le 21 novembre. Cela ne plaît pas aux pro-américains, hein, donc la CIA et les réseaux Soros, hein, pour l'essentiel. Et puis, évidemment, la population ukrainienne convertie hein, à l'américanophilie ou du moins au mondialisme, etc. Donc c'est le résultat de ce scrutin qui donne la victoire aux pro-russes ne plaît pas et les pro-américains lancent des manifestations et des émeutes pendant plusieurs semaines. Et ces émeutes donc aboutissent finalement à annuler le résultat du vote et à revoter un troisième tour, non prévu dans la constitution ukrainienne. Encore des problèmes de constitution, hein, on en a parlé beaucoup ce soir. Ça, c'est ce que, comme l'a rappelé d'ailleurs Vladimir Poutine hein, dans son entretien avec Tucker Carlson. Donc la Cour suprême ukrainienne finit par transgresser la constitution ukrainienne. Hein, et donner satisfaction aux insurgés, après plusieurs semaines d'émeutes, hein, en annulant le résultat du second tour et en organisant un troisième tour. Et à l'issue du troisième tour de cette élection, le résultat s'inversait, donc c'était le candidat pro-américain qui gagnait, comme par hasard, hein, évidemment. Donc le cycle complet de ce coup d'État institutionnel s'achève le 23 janvier 2005 par l'investiture du candidat pro-américain élu de manière inconstitutionnelle au troisième tour. Ce putsch légal a été rendu possible par la complicité de hauts fonctionnaires corrompus, évidemment, au moins ceux de la Cour suprême. Donc, aucune révolution n'est possible sans le soutien d'une partie de l'État profond hein, et de la haute fonction publique. Et en France, on se souvient de Bernard Cazeneuve qui disait « Même si Marine Le Pen gagne, je reste au ministère de l'Intérieur. Je m'en fous. Faites ce que vous voulez. » Plus récemment, on a vu l'affront des préfectures contre la loi immigration. En coulisses, en privé, en off, hein, les divers syndicats professionnels, hein, CGT, etc., envisagent sérieusement de bloquer le pays, au cas où ce qu'ils appellent l'extrême droite arriverait au pouvoir par les urnes, donc légalement. Donc, alors, l'épicentre de cette révolution colorée française hein, sera la place de la Concorde, hein, équivalent de Maïdan à Kiev. C'est vraiment la place centrale hein, où il y a toutes les institutions à portée, je dirais, de jet de pierre, en quelque sorte. Enfin, en tout cas, on peut y aller à pied, hein, puisque vous avez donc l'Assemblée nationale de l'autre côté du pont, vous avez l'ambassade des États-Unis hein, qui organisera les manifestations juste à côté de chez elle. Et donc, avec des annexes, alors il y aura évidemment des foyers de violence à République, Bastille, Nation, et on verra une tribune, hein, comme sur Maïdan, où défileront Bernard-Henri Lévy, hein, Daniel Cohn-Bendit, hein, pour lui faire sa deuxième révolution colorée après mai 68, hein. Jean-Luc Mélenchon, et puis probablement Malek Bouti, hein, bon, sauf s'il a changé d'avis, et Maodrama, et évidemment, qui sera une sorte de, je dirais, de visionnaire. Hein. Elle l'avait dit, elle l'avait annoncé. Et divers représentants du mondialisme hein, pour nous jouer une fois de plus le théâtre de l'antifascisme, hein, comme disait Lionel Jospin, et faire barrage à l'extrême droite. Ce ne sera cependant pas suffisant. Le récit habituel contre le Rassemblement national est en voie de ringardisation. Hein, les accusations de fascisme, de racisme, d'antisémitisme ou d'islamophobie sont des armes psychologiques qui marchent encore hein, dans certaines catégories de population, notamment les boomers, mais qui sont en voie de démonétisation complète et qui ne suffiront pas à endiguer la progression électorale du RN. Donc il y a de nouveaux éléments de langage hein, qui sont apparus hein, une nouvelle stratégie rhétorique consistant à accuser le RN d'être non pas d'extrême droite, car ce n'est plus un gros mot, enfin en tout cas ça se banalise, mais plutôt de ne pas l'être suffisamment. Hein. Par exemple, il a tout trahi, il a trahi ce, le projet, enfin la formule originelle hein, de Jean-Marie Le Pen. Tant mieux, hein, puisque ça ne parlait qu'à 10-15% de la population de toute façon. Donc de toute façon, un parti qui veut gagner, enfin qui joue le jeu électoral, a intérêt à monter le plus haut possible. Ce nouveau storytelling donc nous explique que le RN manque de radicalité, ne veut pas sortir de l'UE ni de l'OTAN, que le RN est en fait une opposition contrôlée ou autorisée, que Marine Le Pen ne fera pas mieux que Giorgia Meloni, bah, sous-entendu, ne faisons surtout rien, et la preuve, elle a raté son débat, deux fois. Donc son parti est sous contrôle, blablabla, des sionistes et de l'État profond américain. Oui, puisque en fait dans ces nouveaux éléments de langage, il accuse, enfin en fait il y a aujourd'hui, bon c'est une sorte de melting pot d'accusations, puisque le Front National, le Rassemblement National se retrouve accusé d'être simultanément antisémite et sioniste. Bon, mais en fait c'est à l'image justement de cette coalition hein, qui sera articulée. Par l'État profond et les réseaux gladiaux, hein, et qui permettra d'unir, comme en Ukraine, des organisations venant de l'ultra-gauche, de l'ultra-droite, hein, et puis éventuellement bon, des islamistes, peu nombreux en Ukraine, ce sera beaucoup plus visible évidemment à Paris. Ces éléments de langage, donc, de toute façon, sont relativement nouveaux hein, par rapport à l'arsenal rhétorique conventionnel de barrage à l'extrême droite, mais ils forment la petite musique hein, que l'on entend de plus en plus fort. C'est une stratégie de découragement qui vient s'additionner à la stratégie de culpabilisation morale, hein, puisque pendant des années, le but, enfin, du discours anti-FN, c'était de faire comprendre aux gens qu'ils étaient des salauds s'ils allaient vers ce parti et vers ses idées. Bon, aujourd'hui, c'est plus ça, c'est vous n'êtes pas des salauds, vous êtes des naïfs, vous êtes manipulés, parce que ce parti est de toute façon manipulé. Alors maintenant, qui sera dans la rue hein, pour se battre hein, à la place de Mao Drama, hein, puisque dans son intervention à Mediapart, elle disait bon, moi j'ai pas le courage d'aller me battre dans la rue, mais s'il y en a qui ont le courage de le faire, eh bien qu'ils le fassent. Eh bien, ce seront justement en fait hein, tous ces groupes en fait, alors issus des banlieues par exemple. Hein, bon, l'an dernier, on a le nombre d'émeutiers là pendant les émeutes Naël en fait a été évalué à environ 100 000 individus. Bon, c'est une véritable armée. Donc ils seront mobilisés, hein, ils seront articulés, ils seront militarisés, ils seront associés. Aux troupes de Mélenchon, hein, forcément, hein, qui est là en fait pour en quelque sorte les discipliner, ils seront associés éventuellement à une partie de l'ultra droite anti-russe, pro-ukrainienne, hein, c'est-à-dire les amis du régiment Azov en France par exemple, et qui considèrent que le RN est pro-russe, mais comme en fait tout l'État profond anglo-américain et français. C'est-à-dire qu'en fait, en dépit hein, des déclarations de Jordan Bardella, hein, des déclarations pro-ukrainiennes, personne n'y croit, fondamentalement. C'est en ce sens que, bon, en fait, la stratégie de communication de dédiabolisation du RN a ses limites. Et on a vu des articles du Washington Post, fin 2023, début 2024, dire non mais attendez, faut arrêter hein, de croire hein, ce que dit le RN. Fondamentalement, le Rassemblement National est un pion de Moscou hein, et représente les intérêts russes en France. Donc, du fait que précisément c'est cet acteur-là, enfin, c'est-à-dire en gros le complexe militaro-industriel anglo-américain qui animera hein, ces manifestations et ces émeutes, hein, de toute façon, c'est lui qui décide hein, qui est supportable, qui est tolérable, qui est acceptable et qui ne l'est pas. Donc là, bon, le Washington Post hein, a dit clairement le RN n'est pas tolérable en France. On se souvient que Mediapart avait joué aussi un rôle dans le lynchage médiatique de François Fillon. Hein, alors là, c'était une sorte de révolution colorée avant même les élections, hein, puisque Fillon, bien qu'ayant été invité à Bilderberg, était beaucoup trop pro-russe justement hein, et beaucoup trop, en fait, peut-être conservateur, pour être tolérable justement aux yeux des mondialistes qui avaient besoin de placer Emmanuel Macron. Donc, Je vais finir sur ces considérations. Voilà. Bon, en fait, donc, on se prépare effectivement parce que là, bon, on a encore 3 ans en fait avant la présidentielle. Alors évidemment, il se peut très bien que de toute façon le RN ne n'arrive pas au deuxième tour de la présidentielle ou du moins ne le gagne pas. Auquel cas, bon, tous les préparatifs qui bruissent. Quand on a encore un pied dans les milieux de gauche, on le sait, on le voit. On le voit en direct. C'est du sérieux parce que pour eux, en fait, c'est une question de survie. Et puis les milieux islamistes, évidemment aussi, parce que de toute façon, bon, en fait, leur projet, eux, c'est l'islamisation de la France et de l'Europe. Donc tout ce qui pourrait représenter une digue ou un ralentissement est de toute façon considéré comme un ennemi juré, un ennemi mortel. Et puis effectivement, bon, bah les amis d'Azov en France pourraient être mobilisés, pourraient être associés à un groupe comme la Jeune Garde antifasciste. Donc on aurait des fascistes, ou des néo-nazis et des antifascistes qui travailleraient ensemble, main dans la main, contre un parti jugé encore trop souverainiste, et encore trop nationaliste, et encore trop, encore mondialiste, et encore trop eurosceptique et antimondialiste.
Merci beaucoup, cher Lucien, pour cette brillante analyse. Qu'est-ce que vous en pensez, chère Sylvie ?
Que j'espère que dans 3 ans, on n'est plus là, quoi.
Mais vous avez quand même, vous êtes optimiste?
Ah oui, parce que on voit que les choses bougent, on le voit beaucoup, et on voit que les gens on voit qu'il y a une recentralisation qui est en train de se faire, puisque le fait qu'il y ait des choses qui sont dites et qu'ils puissent les vérifier eux-mêmes, leur permet d'avancer. Puis, je suis intervenue sur la chaîne YouTube de Nicolas Bouvier, donc le 9 avril. Il continue à avoir des retours et je continue moi aussi d'avoir des retours de personnes qui sont prêts à nous rejoindre pour faire notre mouvement.
Nicolas, que l'on salue, voilà, passe parfois ici.
Pour faire notre mouvement résistant.
Cher Marc Daoud.
Pour rebondir sur ce que disait Sylvie, oui, j'espère qu'en 2027, on sera toujours pas là. C'est vrai que la France, malheureusement, va devoir subir.
Et par rapport à
Alors moi, je trouve intéressant la discipline de l'ingénierie sociale d'aller chercher un petit peu les mécanismes. Je suis pas forcément d'accord avec l'analyse dans le fond certaines choses. Bon, ça, ce serait l'objet d'un autre débat. Mais en tout cas, j'adore écouter Lucien.
Non, mais là, ce qu'il a expliqué,
l'essayer de comprendre les mécanismes, comment s'articulent certains rapports de force en coulisses. Et moi, ça me passionne d'aller un petit peu regarder dans l'arrière-plan du théâtre. Voilà. Et c'est vrai que je pense que moi, j'aurais mis un peu plus de nuances sur certaines choses. Mais en tout cas, je trouve très intéressant de parler un petit peu de comment est-ce que certains partis politiques jouent le rôle, d'excitateurs, d'agitateurs, etc. Mmh. Et comment ces rapports de force peuvent être utilisés par des forces extérieures à la France et à leur avantage. Voilà, exactement.
Merci à toi, cher Marc. Dites-moi, après plus de 2 heures d'entretien, chère Sylvie, comment vous aider, comment vous contacter, n'hésitez pas à le dire là à nos spectateurs qui sont plus de 7300 à nous regarder.
Alors moi j'ai mon site Cylia qui est cylia, oui, @free.fr.
C'est votre mail?
Oui, c'est mon mail.
Voilà, Cylia.
Donc, voilà.
Donc s'il y a des gens qui veulent vous contacter, c'est Cylia.
Voilà.
Ensuite, comment vous aider, comment vous soutenir, comment ça se passe?
Les personnes qui sont partantes.
Est-ce qu'il y a un site peut-être aussi?
Non, pour l'instant, on n'a pas de site parce que...
D'accord. ou un réseau social quelconque?
Non,
ou,
pour l'instant, on n'en a pas. Oui. En fait,
dites-nous, voilà,
les personnes qui nous contactent, on leur envoie les documents, ils diffusent au maximum les documents. Nous, on a les adresses mail, et après, on va leur donner la marge à suivre, puisqu'on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'à partir de lundi, il y a certaines personnes qui vont recevoir des courriers et qui vont être amenées à devoir
répéter le mail, l'adresse mail.
Cylia, cylia@free.fr.
Voilà, donc c'est pas compliqué. Cylia, cylia. @free.fr. Voilà. Vous rentrez en contact, et puis je sais pas, il y a peut-être, j'imagine que vous avez besoin ensuite de moyens, peut-être, non?
Pour l'instant, on est tous bénévoles et on met tous la main à la pâte, tout ça. Voilà, on veut pas avoir.
Bravo, voilà. Chère Sylvie, pour votre courage. On a fait un petit sondage, tiens. Avez-vous apprécié l'intervention de Sylvie Charles? Oui, à 93%, 511 votes en l'espace d'un quart d'heure. Merci à vous, c'est pas que c'est énorme. Sachez une chose, chers amis, que on va de plus en plus lancer de types d'affaires. On va inviter des gens que vous ne connaissez pas forcément, mais qui ont enquêté sur des affaires d'État. Et ça, vraiment, voilà, on va le faire de plus en plus, de plus en plus souvent, parce que il faut aussi mettre en avant ces enquêtes. Marc Daoud, Nexus. Voilà, Nexus, on peut trouver Nexus là en librairie, j'imagine.
En kiosque, librairie, kiosque, voilà.
Ce mois-ci, c'est quoi ?
Actuel, qui est encore pour quelques jours, jusqu'à fin avril, en kiosque, sur le fichage, la surveillance algorithmique pendant les Jeux Olympiques. Souriez, vous êtes fiché. C'est l'objet d'un article, d'un dossier qui montre un petit peu...
C'est celui du mois de mai ?
Celui du mois de mai prochain, c'est sur le traité des pandémies.
D'accord.
Qui arrive avec l'OMS et qui va un petit peu... resserrer les mailles du filet de la surveillance sanitaire sur les populations avec l'OMS derrière. Et on arrive toujours à cette fameuse convergence algorithmique, les passes, le numérique qui vient contrôler les libertés des citoyens. Et ça rejoint ce que disait Sylvie tout à l'heure par rapport à ce fameux modèle chinois qui commence à conquérir le monde entier. Et qui inquiète énormément par rapport à toutes les libertés des citoyens.
Voilà, le Twitter magazine Nexus, voilà, c'est diffusé. Allez-y, soutenez aussi nos amis de chez Nexus. Et enfin, Lucien Cerise, bah tiens, ça, il va être mis à jour ce bouquin, l'Ukraine, OTAN.
Là, on va attendre que le stock soit entièrement vendu.
Donc, est-ce qu'on peut le trouver?
Pour éventuellement faire une mise à jour.
Celui-là, est-ce qu'on peut le trouver?
Oui, on peut le trouver donc directement sur le site de l'éditeur Culture et Racine.
Voilà.
En librairie, la librairie Vincent, par exemple. Après, je sais plus. Sinon, c'est possible de le commander sur Internet, oui.
D'accord. Merci à vous, les amis. Merci, vous étiez plus de 7500 à nous regarder en direct. Faites diffuser cette vidéo, balancez-la partout, likez. N'hésitez pas même à la reprendre, à la mettre sur vos Odyssées si c'est possible. Allez-y. L'objectif étant que cette vidéo tourne le plus possible. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, oui, est-ce que c'est Scylla avec un C ou avec un S ? C'est Scylla, CYLLA@free.fr. Voilà, vous rentrez en contact avec Sylvie Charles et ses équipes. Nous, on se retrouve demain soir avec Florian Philippot. On va parler des européennes avec Florent Philippot, on va parler de son programme, son projet. Et donc, passez une excellente soirée et à demain soir. Allez, salut, ciao!